BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Bonsoir à tous, merci d'être là, 19h30, Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Vous le savez, chaque soir on est là en direct à la radio, à la télé pour décrypter toute l'actu tech du jour. Une actu tech qui ne s'arrête jamais avec ce soir au sommaire de ce Tech & Co, cette info étonnante qui provient de la Maison Blanche. Et bien voilà, les USA veulent contrôler leurs IA, les Anthropic, les ChatGPT vont être obligés de faire valider leur IA par le gouvernement. On va en parler dans quelques instants et surtout pourquoi cette réflexion. On ira en Chine aussi, la Chine qui a déployé plus d'un millier de robots policiers qui sont humanoïdes et qui vont interpeller les usagers, peut-être même mettre des contraventions. Et on s'intéressera tout à l'heure aussi à l'actualité de Motorola, le constructeur de smartphones qui annonce 8 smartphones en France, et je recevrai le patron France de Motorola. Il sera mon invité tout à l'heure. Voilà le sommaire de ce Tech & Co. Très heureux de vous retrouver en ce mardi soir et bienvenue à vous toutes et à vous tous.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Bien sûr, le débrief de l'actu tech pour débuter avec ce soir sur le plateau de Tech & Co, Frédéric Krebs qui est là. Salut Fred.
Ouais, bonsoir François.
Président de Krebs & Partners, Frédéric qui a bien voilà une connaissance assez puissante dans le monde de la tech et puis aussi des médias puisque tu as été le DG d'Allociné. On s'en souvient il y a quelques années. Merci d'être là Fred. À tes côtés, Clément non, c'est pas Clément David qui est de l'autre côté, c'est Lucas Perrodin.
Ah, ça perturbe quand même cette histoire.
Ah ben bien sûr, ouais, mais bien tu sûr. Sais, c'est comme les repas hein, Dominico, t'as le beau-frère qui est là, etc. Là, je suis un peu perdu, parce que d'habitude, Clément est de l'autre côté. C'est vrai. Là, je m'adresse à tous ceux qui sont à la radio, parce que là, effectivement, il faut que je sois obligé d'expliquer ce qui se passe. Lucas Perrodin est là aussi. Salut, Lucas.
Bonsoir.
Président de AI2 Market. Lucas, qui est un spécialiste de l'IA et qui a bossé dans la VR et l'AR chez Meta. C'est rigolo, parce que quand on dit ça, on se dit que t'as bien fait de te barrer.
Pourquoi?
Parce que la VR chez Meta, c'est pas le truc le plus bankable, quoi, non?
L'AR, ça marche très bien. Ils ont vendu 7 millions de Ray-Ban Meta l'année dernière. Oui, oui. Ça marche très bien, là,
le masque, wearable. Le masque.
Non, mais on pourra en reparler une fois, mais ça n'a jamais été conçu pour être mainstream. C'était une marche d'escalier pour aller vers l'AR.
Donc, un peu comme le Vision Pro, finalement.
C'était le plan. Wow, le Vision Pro, c'est encore un autre.
C'est un autre débat.
Les mots qui fâchent.
Ouais, ouais, ouais. Et t'as vu, il lâche pas le bout. Hein.
Non,
la VR, ça a marché.
Je te présente plus qu'à Perrodin.
J'ai dit que c'était le.
Oui,
c'était le plan.
Ouais. Et puis c'était un peu la danseuse de Zuckerberg qui croyait beaucoup, non?
Bah oui, il y croit encore.
Il y croit encore.
Il a raison.
Il y croit encore.
Clément, si tu commences à chanter,
oui, non, là,
ça va, c'est pas bon.
On va jamais démarrer.
Que va dire Véronique? Bonjour madame.
Virginie.
Virginie, pardon.
La poulette.
Je me suis trompé. J'ai confondu Véronique et Virginie, la maman de Clément. Pardon, ouais, madame, ouais. Excusez-moi. J'appelle madame, comme ça au moins, il n'y a pas de problème. Clément David, qui est le président de Théodo Cloud. Tout va bien, Clément?
Nickel.
Nickel. Je te vois avec tes petites notes, tu as bien révisé.
On
va avoir du lourd ce soir. Et on va commencer par cette info qui nous vient des US. En matière d'IA, les Américains sont-ils en train de se transformer en Européens? Selon le New York Times, après avoir vanté la déréglementation et le laisser-faire en matière d'innovation, l'administration Trump voudrait maintenant imposer un contrôle gouvernemental sur chaque nouveau modèle d'IA avant sa mise sur le marché. Ça fait un peu penser à l'IAC, tout ça. On écoute Anthony Morel, il en parlait ce matin dans Good Morning Business.
Alors visiblement, le déclic, ça a été Mythos. Vous savez, Mythos, on en a beaucoup parlé, c'est ce modèle d'IA conçu par Anthropic qui est jugé tellement puissant qu'il n'a pas été rendu public parce que notamment cette IA, elle avait identifié des milliers de failles d'informatique critiques dans des logiciels qu'on utilise tous les jours. Et ça, visiblement, ça a été une sorte de wake-up call pour la Maison Blanche et ils se sont dit, c'est peut-être le moment de mettre en place un certain nombre de garde-fous, d'où ce décret présidentiel qui est en cours de préparation, qui serait une sorte, on pourrait appeler ça un contrôle technique de l'IA. En gros, il va y avoir un groupe de travail qui va être créé, qui réunira des officiels gouvernementaux et des responsables de grands groupes technologiques et qui vont établir des procédures d'évaluation pour tous les nouveaux modèles. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une nouvelle version de ChatGPT, de Grok, de Claude ou de Gemini, eh bien, il faudra une sorte de tampon gouvernemental, de feu vert avant la commercialisation, avant qu'elle ne soit rendue publique. Et donc ça, c'est un vrai changement de doctrine. On pourrait même dire un retournement de veste quand on se souvient des discours très pro-déréglementation de Donald Trump, hein, qui était vraiment en mode l'innovation avant tout. Il avait même dit, alors je me souviens, il comparait l'IA à un bébé qu'il faut, dit-il, laisser grandir et s'épanouir. Nous ne pouvons pas l'arrêter par des règles insensées et stupides. Et en fait, si, voilà, il se rend compte que si. Ben, alors, c'est vrai qu'il y a eu un changement d'époque. Maintenant, j'allais dire, on a eu un changement d'échelle. On a des systèmes d'IA qui sont de plus en plus puissants. Il n'est pas question de risquer. C'est un des scénarios catastrophes. Hein, mais par exemple, une méga cyberattaque qui serait générée grâce à une IA de dernière génération et dont on pourrait le rendre responsable. On est près des mid-term en plus. Il y a aussi toutes les inquiétudes des Américains sur les pertes d'emplois, il y a quand même des plans sociaux, sur la santé mentale des Américains, il y a beaucoup de gens qui utilisent maintenant ChatGPT comme une sorte de psy virtuel, sur les factures d'électricité aussi qui sont augmentées par l'intelligence artificielle. Donc face à tout ça, ils disent c'est le bon moment pour mettre en place un certain nombre de limitations et de contrôles. Et puis derrière cette volonté, il y a un dernier point qui est très important, c'est le fait de contrôler en amont ces IA, c'est d'avoir aussi une sorte de vision en avant-première finalement, avant qu'elles ne sortent, pour pouvoir bien potentiellement en exploiter toute la puissance à des fins, par exemple, de renseignement ou à des fins militaires.
Et voilà, ça c'est l'analyse, on va dire, ultime d'Anthony, effectivement. Hein. Donc voilà, le gouvernement américain qui va contrôler les nouvelles IA et valider en quelque sorte leur déploiement. Ouais. C'est quand même dingue. Vous y croyez ? Est-ce que c'est encore un coup d'épée dans l'eau qui va disparaître ou ça va vraiment arriver ce truc-là ? Tiens, Clément.
Et après, il y a deux trucs. Le premier, c'est qu'il fait exactement ce qu'il avait déconstruit de ce que voulait faire l'administration Biden. C'est-à-dire qu'il y avait un décret de 2023 et en 2025, en janvier, il a dit non, c'est nul, l'histoire du bébé Montessori appliquée à la tech, faut le laisser grandir, machin, s'il doit pisser dans ses chaussures, c'est très bien, il apprend. Bon, il fait ses tempêtes émotionnelles. Le truc, c'est, il revient en arrière parce qu'en effet, il y a ce truc-là. Ça va exister d'une manière ou d'une autre. On peut avoir une discussion après sur vraiment l'impact sur le marché, etc. Je vais juste revenir sur la question que tu as posée pour qu'on l'écarte très vite, sur est-ce que finalement ils nous la jouent pas à l'européenne. J'ai vu ça beaucoup sur LinkedIn. Ouais. Finalement, est-ce que ça veut pas dire que l'Europe a raison de réguler, ils y viennent, etc. Rien du tout. En fait, ça, c'est une réaction de traumatiser des régulations européennes qui sont faites pour détruire le business. Et résultat, on se dit, dès qu'il y a une régulation, ça va être le même impact. Nous, notre vision en Europe, elle est sur l'IA Act, c'est une IA éthique. Qu'est-ce que vous faites pour la société, etc. Ce qui peut être très bien, mais pour protéger le fait qu'on fasse pas de la reconnaissance faciale, etc., etc. Comment est-ce qu'on protège,
entre guillemets, protéger l'humain,
l'humanité. Bon, les Américains,
là, peut-être pas véritablement la voie que veut emprunter.
C'est pas du tout ça. Là, on a plutôt un problème de sécurité nationale. C'est-à-dire, est-ce que vos modèles, quand ils vont arriver, vous pouvez nous garantir qu'ils vont pas être utilisés, en effet, pour faire des attaques cyber à grande échelle qui permettent pas de faire des choses qui seraient contre notre sécurité nationale. Mais l'objectif est absolument pas de protéger l'humanité et ce qui est bon pour elle. C'est pas la même philosophie de régulation du tout.
Lucas.
Il y a beaucoup, comment on dit en anglais, il y a beaucoup à déballer. Il y a des a lot to unpack. Il y a beaucoup à déballer. Est-ce que ça me surprend? Oui, c'est inattendu. Est-ce que ça a beaucoup de sens? Est-ce que c'est ancré, en fait? C'est ça la question. Moi, je pense pas tellement. Il y a eu plein de choses dans le sujet. Il y avait la sécurité nationale, la santé mentale. La santé mentale, s'ils s'en préoccupaient, on serait déjà, on a déjà vu que c'était pas forcément le problème de l'administration américaine. D'abord, comment ça marche? On régule quoi? Donc, on nous présente un modèle, qui le regarde, qui le juge. Je pense qu'il y a très peu de gens dans le monde qui sont capables de juger correctement un modèle, et c'est très compliqué.
Enfin, analyse du gouvernement, c'est aurait pour mission d'analyser d'éventuelles vulnérabilités, notamment en matière de sécurité nationale. Mais tout est dit, en fait. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est véritablement analyser une IA pour voir si, le gouvernement ne peut pas se l'approprier pour déployer ça pour la défense.
Quand elle est sortie,
je le vois comme ça. Il y a que ça.
Le problème, c'est qu'une fois que tu as fait cette analyse, tu fais quoi? Un modèle qui est sorti, dont les poids sont disponibles quelque part.
Tu le réquisitionnes.
C'est impossible. C'est très, très, très compliqué. Un modèle, une fois qu'il sort, s'il est quelque part, les poids sont. Tu vois, par exemple, ce qu'ils craignaient également, c'est à chaque fois que la tech, les investisseurs américains mettent de l'argent dans l'IA, un mois plus tard, t'as un modèle chinois qui quantise tout ça, en fait, qui regarde les poids, qui le fine-tune et qui fait une version open source. En fait, moi, je pense que c'est plutôt ça la motivation. C'est l'aspiration de valeur. L'histoire de Mythos, ça peut être aussi un mythe, parce que, Anthropique, ils ont besoin d'investissement, ils disent, on a un modèle, mais vous le montrez pas, il est tellement puissant. Entre guillemets, on est les plus forts, on est au-dessus de tout le monde en IA, continuez à investir chez nous. Enfin, il y a beaucoup de messages pour les investisseurs dans tout ça. Donc, moi, je suis assez sceptique. Et ensuite, une fois, qui le revoit et comment on fait une fois qu'il est vu? Moi, je vous garantis que garder un modèle sous contrôle une fois qu'il a été développé, un modèle à la fin, c'est des poids et avec une capacité d'inférence, ça va être extrêmement difficile. À partir du moment où ils sortent, il y a des copies, ils sont disponibles sur le dark web. Enfin, c'est dans l'air qu'on respire, quoi. À partir du moment où ils sont produits, une fois que l'animal est produit, il est très difficile à maîtriser. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on l'a repéré et comment on le garde sous contrôle plus de quelques semaines? Ça, c'est, je ne sais pas comment on fait.
Mais est-ce que c'est pas Mythos finalement qui a été un peu le déclencheur de tout ça, Fred?
Bah, c'est complètement Mythos.
Mythos.
Comment?
Parce que c'est rappelons Mythos. Oui. Cette IA dernière génération d'Anthropic qui était tellement puissante que même Anthropic ne voulait pas la libérer, en fait, la proposer au grand public. Elle était réservée qu'à certaines entreprises, je crois, parce que elle était tellement puissante que ça faisait un peu peur à tout le monde, et notamment en termes de cybersécurité, elle avait des avances et ça pouvait créer peut-être des gros problèmes de cybersécurité parce qu'elle avait trouvé des failles que dans des boîtes ou dans des services qui n'avaient pas été trouvés, en fait.
Et notamment dans les grandes banques. Oui, puisque Mythos, donc c'est le dernier modèle proposé par Anthropic, a été proposé en version privée, donc aux grandes banques américaines. On parle de Goldman Sachs, JP Morgan notamment.
Amazon aussi, je crois.
A pu y avoir accès aussi. Donc c'est une version privée. Donc effectivement, Lucas, elle n'était pas encore disponible de façon en fait illimitée en fait au grand public. Ils ont pu tester en fait toute leur infrastructure logicielle, et ils se sont aperçus qu'il y avait des failles. Ce qui me semblait aussi un peu bizarre, c'est que l'administration Trump, notamment la défense, le Pentagone, n'ait pas eu accès, alors, parce que ça aurait été quelque chose d'assez naturel. Et pour moi, en fait, cette histoire où l'administration de Trump veut reprendre la main, en tout cas sur la validation des modèles, c'était surtout sur le fait que Anthropic ne voulait pas libérer en fait ce modèle pour eux. Il ne voulait pas en fait le rendre public. Donc c'est assez marrant parce que c'est une entreprise privée qui s'autorégule et l'administration publique veut réguler en fait quelque chose, en tout cas une activité.
Mais est-ce que finalement c'est pas le gouvernement qui veut reprendre la main sur ses armes, parce que ça devient une véritable arme, et veut être le premier finalement à récupérer les dernières technologies, jauger ce que ça vaut, s'il peut en garder un intérêt, peut-être réquisitionner ce truc-là pendant quelques semaines, quelques mois pour s'en servir, avant que ça aille peut-être vers des pays ennemis ou des... Enfin, je sais pas.
Ils n'ont pas les capacités de le faire. C'est ce que Lucas
disait. Ils n'ont pas les talents.
Déjà, il faut se méfier d'un truc. Je vais faire une métaphore un tout petit peu à côté, mais il y avait un mec à l'UFC qui allait combattre Benoît Saint-Denis qui s'appelait Mauricio Ruffi. Tout le monde disait que c'est une star et il n'allait jamais au sol. Et on disait, mais vous allez voir, à l'entraînement, son sol est incroyable. À un moment, ils y sont allés au sol pendant le combat avec Benoît, il s'est fait éclater, parce qu'en fait, tu vois jamais son sol, il y a une raison, c'est qu'en fait, il est pas si bon. De la même manière, je me méfie un peu du modèle où tu le vois pas, on peut pas le sortir tellement il est fort, mais vous inquiétez pas, il est incroyable. Bon, c'est quand même un peu, c'est ce que tu disais, mais c'est un peu
narratif, ouais.
Voilà.
Il y a quand même un côté marketing. Ouais.
Ensuite, il y a en revanche un autre narratif que j'ai vu beaucoup sur les réseaux aujourd'hui et avec lequel je suis pas trop d'accord. Les gens disent, ça va ralentir OpenAI, ça va ralentir Anthropic, c'est mauvais pour eux. Pour eux, c'est un jackpot absolu. C'est-à-dire que si ce truc arrive vraiment, qu'il faut vraiment montrer ces modèles, etc., eux, ça fait 3 ans de toute façon qu'ils ont les infrastructures, les équipes pour répondre à ce type de questions qui sont scrutées en permanence. Ce que ça va ralentir, c'est les modèles européens qu'on voudra lancer éventuellement, qui eux devront se soumettre à ça aussi. C'est les startups qui voudront se lancer, mais maintenant il y aura une barrière à l'entrée, donc ce sera plus compliqué. C'est-à-dire que si on commence vraiment à checker les modèles Anthropic et OpenAI, ils sont équipés pour cette charge supplémentaire de travail depuis très longtemps.
Ouais, mais il y a un niveau de complexité. Tu sais, la régulation européenne, c'est pareil, tout le monde s'en plaint, mais en fait, il y a que très peu de gens qui sont concernés, parce qu'il faut avoir une certaine.
C'est un peu l'équivalent de Secnum Cloud chez nous. Les gens que ça a embêté, la barrière qu'elle a mise, en fait, finalement, elle a pas tant gêné les Hotscale, les Google, les, tu vois. Et le deuxième truc, c'est, ça veut dire qui va être, c'est censé être des dirigeants tech qui vont discuter avec le gouvernement pour établir les règles. Ça va être qui, les dirigeants tech? Ça va être les mecs de Google, d'OpenAI et d'Anthropic. Donc, en fait, ils vont arriver, c'est exactement comme Bâle 3, tu vois, après la crise des subprimes, on a invité Goldman Sachs et je sais pas qui, tu connais mieux ce domaine que moi, mais en disant c'est quoi les règles pour la suite? Et bizarrement, ces règles leur allaient très bien et c'est pas du tout eux que ça a étranglé. Donc en fait, eux,
surtout, c'est les chercheurs qu'il faut, c'est pas les dirigeants.
Oui, là, ça sera les dirigeants. Donc en fait, ils vont se construire un monde sur mesure qui va embêter, ralentir tout le monde sauf eux. Pour eux, et d'ailleurs, en fait, le côté mythos, on vous prévient, c'est grave, ça vient d'Anthropique. Le Congrès, Sam Altman, c'était déjà lu en 2023, qui dit on va vous dire des trucs, il faut que vous preniez conscience, il faut réguler, etc. Parce que si ça régule maintenant et avec eux, c'est les rois du pétrole. Mm-hmm.
Mais même Musk qui poussait la régulation, enfin OpenAI, le procès, c'est exactement, c'est l'AI pour l'humanité. Bon, il y a des gens que ça ne dérange pas du tout, c'est la Chine. Je pense qu'eux, ils sont dans leur ligne de travail. Enfin, c'est un peu une... Quelque part, finalement, c'est une bataille d'un autre âge qui se joue là, parce que les grands équilibres, recherche, innovation, ils ont bougé sur l'IA, la Chine, et au niveau. Donc, et ça les concerne pas. Donc, moi, je suis très sceptique sur... Je ne sais pas ce qui motive ça. Est-ce que c'est une réaction épidermique, comme on en voit parfois en ce moment à Washington, qui n'est pas du tout ancrée sur quelque chose de réel? Parce que des annonces foudroyantes de l'administration américaine, on en a vu passer un certain nombre, mais qui deviennent opérationnelles et efficaces, le filtre, c'est quoi? C'est 5% quoi, de ce qui est annoncé réellement.
Surtout ces deux dernières années. Quoi.
Ouais, et ben là, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le même... Parce que les motivations, elles sont un peu dans tous les sens. Quoi.
J'allais dire, est-ce que ça peut faire tache d'encre avec l'Europe? Mais bon, comme avec l'Europe, mais étant donné qu'on a très peu d'IA...
Oui, puis, mais on a
réglé, au moins.
On a déjà l'AI Act qui
oui.
sert justement à
Oui, mais comme le disait tout à l'heure Clément, ouais. c'est sans doute pas le même objectif. J'ai l'impression, l'AI, c'est vraiment pour réguler, pour mettre l'humain au milieu, etc.
C'est plus lié à la, tu vois, ça ressemble plus à la philosophie d'Anthropique quand ils disent, voilà, les 7 potentielles plaies qui peuvent être liées à ouais. l'IA, et donc, il faudrait pas que ça arrive, l'utilisation pour détruire la société, machin, etc., mais qui me semble être de discours.
Ce qui est contre-intuitif, c'est que l'IA Act, il est meilleur pour l'innovation que ça, parce que l'IA Act, je connais les règles par avance. Là, oui, donc je vais donner ça à un comité, je sais pas qui va le faire. Et en fait, innover pour donner ça à un comité qui peut dire fumée noire, fumée blanche, et sans que je sache pourquoi, c'est un inhibiteur de l'innovation aussi. Donc je pense qu'il faut un peu se méfier. Bon, je passe beaucoup de temps aux US, là je viens de passer un mois sur les 3 derniers. Il y a beaucoup de mythologie un peu en France là-dessus. Sur, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en ce moment, ils souffrent pas mal parce qu'ils savent pas... Investir sur le long terme dans la tech, c'est compliqué parce que les lignes bougent tout le temps, les tarifs, les usines, il faut les changer. Enfin, il se passe tellement de choses que l'investissement à long terme, il est un peu inhibé par ça. Donc,
Fred, pour terminer sur ce sujet, alors.
Il y a un point aussi de contexte qui est hyper important, c'est un point politique. Trump a un œil sur son électorat en ce moment, et son électorat, qu'est-ce qu'il voit aux infos tous les jours? C'est des réductions d'effectifs. Hein. Il y a eu 300 000 personnes qui se sont fait licencier là en l'espace de 2 mois. C'est des data centers qui commencent à consommer énormément d'énergie. On pense même maintenant à introduire en fait une notion énergétique en fait sur l'AI. Il y a une notion d'éducation, de santé mentale en fait, parce que les gens en fait ils savent plus avec qui ils parlent. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est une conscience ou pas? Bref, il y a tous ces sujets là qui commencent à faire vraiment peur à l'électorat MAGA, ce qui fait que Trump est en train de se dire, bah tiens, j'envoie un signal où on remet un peu la main au collet de cette technologie, comme ça on montre qu'on fait un pas en direction en tout cas de mes électeurs.
Bon, on verra bien les premiers effets de tout ça, hein. Ça va pas tarder à arriver, je pense.
Ou pas.
Ou pas, ouais, effectivement. Dans l'actu aussi, autre sujet très intéressant, cette fois-ci, on reste toujours dans l'IA, mais on s'intéresse aux processeurs, vous savez, qui sont... on va dire, les forces vives de cette IA. Vous savez que c'est Nvidia qui mène la danse aujourd'hui. Tiens, d'ailleurs, on parlera tout à l'heure d'un possible challenger de Nvidia qui s'appelle Cerebras Systems, qui est une startup qui peut-être être le challenger de Nvidia. Mais je voulais qu'on évoque ensemble cette guerre des processeurs et des mémoires, enfin, de tout ce qui fait aujourd'hui les produits de l'électronique grand public, et prendre le cas d'Apple, parce que Apple se trouve dans une situation un peu compliquée actuellement. Apple, ça a toujours été, on va dire, un énorme client de TSMC. Cette machine incroyable taïwanaise qui crée des processeurs et plein d'autres composants d'ailleurs, hein, notamment pour les réseaux. Apple commande chaque année des dizaines de millions, des centaines de millions de composants. Le seul souci, c'est que aujourd'hui, TSMC n'est plus véritablement le client numéro un d'Apple, parce que Nvidia a besoin de processeurs, de mémoire, etc. et est passé devant en termes de commandes de produits, de puces, devant Apple. Et Apple se retrouve dans une situation compliquée. Comme il ne mène plus la danse, il a peur d'une pénurie de composants. Et qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, en fait, à Apple, de ne pas avoir les bons composants pour vendre ces centaines de millions d'iPhones. Donc, Apple est en train d'essayer de trouver des plans B et de plus mettre ses œufs dans le même panier, d'autant qu'il y a aussi, je vous le rappelle, quand même des problèmes géopolitiques forts, quand même, à Taïwan. On ne sait pas trop ce qui va se passer demain. Donc, il essaie de voir comment il pourrait trouver des plans B. Et on évoque des partenariats avec Intel, avec aussi Samsung, pour justement, au cas où ça dégénère avec TSMC, ils puissent malgré tout continuer à fabriquer des puces avec ses partenaires potentiels. Sincèrement, moi je n'y crois pas, parce que qui a le savoir-faire de TSMC à part TSMC, Fred ?
Personne d'autre. TSMC, ils ont quasiment 15 ans d'avance.
Alors, ça mettra peut-être 10 ans, 15 ans.
Ouais, ils ont 15 ans d'avance à notre point de vue industriel. Ils ont 15 ans d'avance par rapport à Intel ou Samsung. Je pense que dans ce qu'on voit là, ici, là, c'est surtout.
T'es pas d'accord, Lucas? Bon, on en parlera après.
Attends. Voilà, c'est surtout, en fait, la vocation de Tim Cook de relocaliser, enfin, de donner des signes de relocalisation d'une certaine activité industrielle sur le territoire américain.
Parce que Intel est américain.
Voilà, et Samsung, ce qui est pressenti, c'est de faire fabriquer, en fait, ses puces au Texas.
Oui.
Donc, c'est une usine Samsung coréenne. Mais au Texas. Donc tout ça fait que ils veulent donner en fait. Apple veut donner, veut montrer en fait là aussi à l'administration Trump. On en revient toujours. Des gages comme quoi ça fait partie de leur plan. Ouais. C'est.
Tu deviens de bon élève auprès de Trump et en plus, t'essaies de sécuriser malgré tout le futur de tes produits.
Et puis il faut pas oublier que l'État américain a 10% au capital d'Intel. Dès que Apple a fait cette annonce, il y a eu quasiment une progression de 4%. De l'action d'Intel. Donc, bon, tout ça, voilà, ça fait partie un peu du jeu, je pense. Maintenant, comme tu l'as dit, le vrai sujet, c'est que d'un côté, tu as Samsung qui sait à peine faire des puces de 3 nanomètres, là où TSMC, ils sont déjà en train de déployer les 2 nanomètres, donc qui sont la prochaine génération d'iPhone. Intel, ils ne sont pas du tout là. En tout cas, ils n'ont jamais réussi, enfin, d'après mes infos, ils n'ont jamais réussi à fabriquer pour des tiers des puces, même de 3 nanomètres. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va être un vrai sujet, en tout cas, intéressant.
Donc, nos prochains iPhones ressembleront à des briques, en fait, tellement ils seront gros. Non, Lucas, plus sérieusement.
C'est vrai qu'il y a des challenges industriels. Alors, 15 ans de retard, je pense que c'est un peu exagéré. C'est plus 2 ou 3 ou 4. Ça dépend de la puissance qu'on met derrière, en fait.
Si tu veux dire par là qu'Intel pourrait rattraper l'avance qu'a TSMC en 3-4 ans?
Intel, je sais pas. Samsung, peut-être. En fait, c'est ce qui est intéressant, même par rapport au sujet d'avant, c'est qu'on dit les Américains régulent et maintenant on dit Apple va faire un massage cardiaque à Intel pour les remettre en vie. En fait, on est en train de boucler des boucles. En gros, TSMC, c'est le, pour prendre une image, c'est le détroit d'Ormuz du chipset. C'est-à-dire que s'il y a un problème physique à cet endroit-là, guerre, blocus, l'industrie mondiale électronique s'arrête. Tout s'arrête parce qu'il y a d'ailleurs des.
C'est pire que le détroit d'Ormuz, finalement.
C'est pire. Donc, cette dépendance stratégique-là, elle est très claire depuis longtemps. Et d'ailleurs, les usines au Texas et dans les États du Sud américains, ça commençait sous Biden, en fait. Parce que ça prend très longtemps. Petite parenthèse, j'en parlais avec Christophe Schell, qui était à l'époque CEO d'Intel. Je crois que tu l'avais eu, qui est quelqu'un avec qui j'ai travaillé. On en parlait à l'époque. Il me parlait du challenge d'avoir, enfin, le temps qu'il fallait pour construire une usine, que l'usine marche, etc. Et puis, bon, Intel, malheureusement, quand ils ont essayé de faire des puces à 3, ils ont cassé les machines. Ça marche pas. Enfin, ils ont perdu le savoir-faire industriel, donc c'est hyper compliqué de ramp-up. Bon, tout ça pour dire que c'est un mouvement qui apparaît maintenant, mais qui a démarré il y a longtemps parce que cette dépendance stratégique, elle est sous notre nez, personne ne la voit. Si la Chine commence à avoir des vues sur Taïwan sérieuses et que ça a un problème sur la production de chipsets chez TSMC, le monde entier est foutu. Enfin, je veux dire, ce qui se passe avec le pétrole, c'est à côté, c'est une rigolade. Donc, le problème, c'est que l'inertie pour régler tout ça. Donc, c'est plutôt ça qui se joue. Donc, moi, je pense que Apple se pose quand même les questions. A de quoi mettre un billet sur Samsung, un billet sur Intel, et voir ce qui se passe. Ça marchera, ça marchera pas. Mais de toute façon, cette dépendance stratégique, elle est mortifère. Enfin, je veux dire, c'est pas une question de si, c'est une question de quand il y aura un problème.
Ouais, c'est ça.
Donc, pour moi, ça me paraît pas impossible.
Et c'est pour ça que Apple multiplie en fait les sites où il assemble ses iPhones. Ouais. L'Inde est en train de monter en puissance.
Vietnam.
Le Vietnam aussi, Lucas.
Clément. On va s'en sortir.
On va s'en sortir.
Pas de soucis.
On va pas y arriver.
Donc, le truc, c'est pour ça que je suis un peu sceptique sur les 2-3 ans pour rattraper le retard, c'est que c'est très long d'acquérir le savoir-faire, c'est très long de lancer les usines. Je veux dire, peut-être 2-3 ans pour trouver la direction qu'il faut prendre pour une alternative. Mais le fait est que c'est quand même le énième soubresaut pour essayer de trouver une alternative, en effet, à TSMC. Moi, je vois deux choses. C'est là que ce que tu disais tout à l'heure sur la visibilité pour investir aujourd'hui, c'est compliqué. C'est-à-dire que les gesticulations de l'administration Trump sur ce qu'on fait pas, la Chine, les listes noires, les trucs, les machins, là, on parle vraiment par définition, quand on parle de hardware, de temps long. On n'est pas sur des modèles qui vont changer tous les 6 mois. T'as besoin de visibilité, t'as besoin de stabilité. Donc, je pense que c'est très négatif pour les États-Unis d'avoir des allers-retours en permanence sur les conditions dans lesquelles on peut investir lourdement sur notamment le hardware et les chips. Et ensuite, il y a quand même un truc qui est, c'est surtout, pour moi, mais tu as commencé à l'évoquer, le 50e move pour essayer de sauver le soldat Intel, qui est quand même une catastrophe industrielle, qui était leader dans les années 90, qui maintenant est en retard, n'arrive pas à sortir des puces au niveau. Il y a eu le Chips Act où on essayait de les biberonner de subventions, c'était jamais assez pour qu'ils arrivent à sortir une usine. Ils ont décalé 3 fois les usines. Là, finalement, je crois qu'il y a même Nvidia. Le gouvernement a pris des parts, mais aussi a demandé à Nvidia de prendre des parts l'été dernier, etc.
Ils ont des problèmes d'outillage, quoi. C'est physique, ils n'arrivent pas à produire.
Ils n'y arrivent pas. Et donc, le truc, c'est si l'enjeu, c'est réussir à faire finalement fonctionner une telle fonderie et leur programme 2030 pour essayer de sortir des puces au niveau de TSMC, et que finalement, c'est le seul dans le carquois américain, c'est la seule flèche qu'il y a de retenter un énième partenariat pour lancer Intel, TSMC, ils ont des beaux jours devant eux, ils ont intérêt, les Américains, à protéger Taïwan, hein. C'est ça qui m'inquiète.
Le problème, c'est que maintenant qu'on l'a vu, on peut plus l'ignorer. C'est-à-dire que c'est un truc qui était latent, cette
décision. Oui, c'est clair.
Mais qui n'était pas remonté au niveau de conscience. Maintenant que tout le monde le sait, ça devient un enjeu géopolitique mondial, il est visible, ça devient un levier d'influence. Donc on est obligé d'aller vite. Tu vois, c'est intéressant.
Ça me fait penser à Amazon, pardon, quand tu sais, il y avait les cloud providers américains en France qui devaient trouver leur partenaire, c'est Qlume Cloud. Et que tu avais Google qui a dit non, on prend Thales. Puis après, tu avais Microsoft qui a dit non, on prend Capgemini et machin. Et à ce moment-là, 2 ans après, Amazon qui n'avait pas envie d'y aller, qui dit bon, bah, nous on va prendre Atos. c'est la même. Samsung et Apple qui dit bon, il nous faut qui. C'est le dernier, la balle aux prisonniers, le petit
Samsung,
diamant.
Samsung, c'est quand même une belle entreprise industrielle.
Samsung, je te parle d'Intel. C'était Samsung et Apple.
Samsung, c'est l'entreprise qui a projeté le quarter dernier le plus grand profit de l'histoire de l'économie mondiale. Oui. Samsung, c'est plus profitable qu'Apple. Enfin, ça marche très bien. Les mémoires de tous les objets électroniques que vous avez, les disques durs, tout stockage, c'est du Samsung. Ils savent quand même faire.
Et puis Samsung vend beaucoup de mémoire, justement, à Nvidia. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'ils ont exposé tous les résultats.
C'est exactement pour ça.
S'ils mettent Intel dans la boucle, il y a une raison. C'est parce que c'est pas leur cash qui va leur permettre de rattraper, là, pour le coup, tout ce qu'ils
ont. C'est un truc de souveraineté aussi.
Ouais. C'est la belle endormie, Intel. Et espérons que.
À la belle, ouais.
On puisse. La réveiller, d'une manière ou d'une autre d'ailleurs. Allez, on va marquer une petite pause, il est bientôt 20h. Tech & Co, on débrief l'ActuTech avec ce soir Frédéric Krebs. Nous avons Lucas Perraudin et Clément David. Vous restez là, on est là dans une minute, à tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le retour de Tech & Co, la quotidienne. Un grand merci d'être là chaque soir, 19h30, 21h. On débriefe l'actu avec Frédéric Krebs ce soir, président de Krebs & Partners, Lucas Perraudin, président de AI to Market, et Clément David, président de Théodo Cloud. J'ai que des présidents ce soir. Moi, à côté, je suis vraiment...
En 2027.
Tout petit, quoi.
Il a un cahier. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça.
Clément a un cahier.
J'ai changé. C'est un Moleskine, je fais la pub.
C'est bien. Il prend ses petites notes, etc., etc. C'est cool. Après, on a la technologie, l'iPad avec l'iPad. Fred. Et toi, tout est dans la tête. Tout est dans l'impro. On va voir si tu vas être bon sur l'improvisation du sujet qui suit. Mais tu nous en parlais pendant la pub, donc je pense que tu as bien révisé quand même. On va parler de Cerebras. Alors peut-être ne connaissez-vous pas Cerebras, qui est une boîte au niveau européen inconnue, en fait. Mais qui a sa grosse notoriété dans la Silicon Valley, parce que, en fait, Cerebras pourrait être, non pas le tueur de Nvidia, je pense qu'on exagère, il y en a beaucoup qui disent que ça serait le Nvidia Killer, peut-être un peu trop, mais en tout cas, un potentiel concurrent sérieux à Nvidia, qui se prépare à une introduction en bourse assez importante, hein, de 3,5 milliards de dollars. On va dire que c'est plutôt un anti-Nvidia, c'est-à-dire que ils ont une manière de fabriquer en fait les processeurs qui est totalement différente. Nvidia, en fait, fabrique ses processeurs un par un, et d'après ce que j'ai compris, vous me coupez si je dis une bêtise, hein, mais en révisant, j'ai compris ça, c'est-à-dire que sur les wafers, en fait, sur les plaques où il y a tous les processeurs, eh bien, Cerebras vend ces plaques entièrement qui sont déjà fonctionnelles, en fait, parce que les processeurs qu'il y a sur toutes ces plaques discutent entre eux. Et c'est une manière de penser très, très intéressante, et qui fait que, bah voilà, ça peut réduire le coût de l'inférence, parce que rappelons que c'est l'inférence qui coûte cher aujourd'hui, hein, en matière de création l'IA, pour faire simple. Et donc, voilà, est-ce que Cerebras peut véritablement chatouiller Nvidia? J'avais envie d'avoir votre avis là-dessus, peut-être commencer par toi, Clément.
Allez, écoute, ce qu'il faut voir, c'est que quand on parle d'Nvidia, il faut voir deux choses. Il faut voir la partie entraînement du modèle et la partie inférence, qui est la partie où, quand tu fais une requête, le modèle réfléchit et te donne une réponse. L'énorme bombe sur laquelle on est assis, c'est que aujourd'hui, le coût de l'inférence, quand tu utilises ChatGPT, quand tu utilises Claude, etc., il n'est pas vraiment facturé. C'est un marché ultra subventionné. Ce qui devrait te coûter, mettons, 200, en fait, on te facture via un abonnement, c'est 20, parce qu'on veut de l'adoption. Le jour où tout
Mais ça coûte de l'argent, tout ça.
Et ça coûte forcément de l'argent. Et c'est une partie une raison, entre autres, pour laquelle, eh ben, Anthropic, OpenAI, etc., perdent de l'argent. C'est parce que, aujourd'hui, ils facturent pas le vrai prix du truc. Le jour où tout le monde aura dégagé, les équipes tech, les machins, le jour où, les consultants seront biberonnés à l'IA et qu'ils pourront plus bouger, sans demander un truc à Claude ou à ChatGPT, qu'est-ce que tu fais quand on viendra te dire, ouais, en fait, en revanche, maintenant, faut payer le vrai prix, c'est multiplié par 10. T'as des boîtes qui vont vraiment en crever. Donc, il y a deux solutions. Soit tu te prépares à ça et tout explose, soit, bah, logique, tu essaies de trouver des alternatives aussi qui font que ça va coûter moins cher. Et sur l'inférence, justement, cette couche de silicium unique qui fait que ça va beaucoup plus vite, que t'évites la latence interpuce, etc., etc., fait que ça va être aussi normalement moins cher. Et donc, c'est pas juste qu'ils veulent concurrencer Nvidia parce qu'après tout, Nvidia a position dominante, etc., certes, c'est aussi que on va chercher des alternatives qui vont faire que l'IA et l'utilisation à l'échelle qu'on veut en faire est viable sur le long terme, notamment en termes de prix pour les entreprises. Et c'est là que Cerebras m'intéresse.
Ouais. Alors, il faut savoir qu'ils ont déjà des clients, hein, Cerebras. Hein. Ils ont OpenAI. Ils ont aussi AWS avec Bedrock. Donc, voilà.
Mais c'est 86% de leur chiffre d'affaires. Donc, une énorme dépendance.
Mais c'est vrai.
On peut essayer Cerebras. C'est Grok, celui de Musk, l'autre.
Oui.
Qui utilise Cerebras, c'est hyper rapide aussi. Effectivement, c'est un truc d'architecture. C'est des substrates qui sont... Enfin, il n'y a pas de pont. Un petit point sur la partie training par rapport à inférence. En fait, l'économie de l'inférence, elle arrive cette année, là, depuis quelques mois, parce que on a beaucoup fait de training, on a beaucoup fait de release de modèles. Après, dans les trainings et dans l'inférence, il y a eu beaucoup d'optimisation. Ce qu'a fait DeepSeek... qui s'appelle Sparse Attention.
Ouais, excuse-moi, je te coupe. Tu parlais de Grok. Grok a été racheté par Nvidia 20 milliards il y a quelques semaines de cela. Hein.
Ouais. Ouais, exactement. Et tester, si les auditeurs ou les spectateurs veulent tester, on peut voir la vitesse d'inférence de Cerebras quand on teste. Ça va extrêmement vite à cause de l'architecture où, en fait, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de bridge entre les GPU. Elles sont toutes sur une plaque. Et puis,
donc, dès que tu poses une question, tu as la réponse. En fait, il n'y a pas de...
C'est très rapide en inférence, ouais.
Okay.
Mais donc, tout ça pour dire que Nvidia aussi est en train d'optimiser ses produits pour l'inférence. C'est-à-dire qu'avant, ils faisaient des produits plutôt pour le training des modèles, et maintenant, ils font plutôt des produits pour servir l'inférence depuis CES, là, tout ce qu'ils ont. Et si Blackwell était en retard, c'est qu'il y a un problème d'architecture. C'est qu'à un moment, on met tellement de chips, et c'est tellement petit, du 10-15, Blackwell a été en retard parce que c'est difficile à souder. Tous ces trucs-là, il faut les souder sur une plaque, et entre chaque chip et la mémoire, il faut mettre des petits ponts. Des petites
pour ces discutes entre eux.
Ouais. Et en fait, il faut faire de l'assemblage. Industriellement, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup de mal à sortir le produit de manière ferme, parce qu'il y avait beaucoup de
déchets
qui marchaient pas, ouais, ouais, dessus. En fait, ça n'avait pas le bon rendement. La façon dont Cerebras travaille, c'est qu'en fait, elles sont pas soudées entre elles sont lithographiées. Elles sont découpées d'une seule.
Elles sont sur une seule plaque.
D'une seule plaque. Les corps, ils sont plus petits. Et la mémoire et la GPU habitent dans le même corps. Justement, voilà. Si vous voulez, c'est ça. Et ça fait qu'en fait, ça va beaucoup plus vite entre les deux. Okay. Et que s'il y a des défauts sur la plaque, le logiciel, il sait quand même optimiser tout ce qu'il y a sur la plaque. Donc, ça va beaucoup plus vite. Et ça, c'est vraiment innovant. Les gens qui font ça sont sérieux. Donc pour moi, on est sur, en tout cas, pour la première fois, un concurrent sérieux, ou en tout cas une architecture qui a une chance d'être l'architecture du futur pour l'économie de l'inférence. Donc ça, c'est quand même breakthrough, et ça fait depuis 2016. Alors le sujet, je l'ai pas fait que le réviser, c'est moi qui l'ai proposé, parce que ça fait longtemps que je le suis en fait. Et comme je disais, je passais beaucoup de temps aux US, et il y a beaucoup de panneaux dans la Silicon Valley qui font la pub de Cerebras avant l'IPO.
Sur les highways, comme
ouais.
ça.
Et ça, c'est très cher, et ça veut dire que traditionnellement, quand ouais. on voit ça, ça veut dire qu'il y a des gros investisseurs derrière qui sont capables de se payer ce type de visibilité. Ouais. Et ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle de due diligence, de vérification que la technologie est compétitive. Donc, c'est la première fois, moi, que je trouve que quelque chose d'intéressant se passe dans le monde des chips. Bon, après, il y a eu Google avec les TPU, c'était intéressant aussi, mais là, on est vraiment... on parlait d'Intel tout à l'heure, on est potentiellement sur un nouveau fournisseur majeur.
Mais Nvidia pourrait pas s'offrir aujourd'hui à Cerebras ?
Il y a une préemption de quasiment de fait d'OpenAI.
Ouais.
Puisque quand ouais. si tu regardes d'un point de vue financier, qui est au capital, OpenAI a déjà fait un prêt de 1 milliard de dollars en fait à la société. Il y a des commandes de 10 milliards de dollars qui sont déjà préemptées, hein, en tout cas sur ce qui va être sorti des chaînes de fabrication.
1 milliard sur 3 ans.
Comment ?
Je crois que c'est un truc genre 20 milliards sur 3 ans.
Après c'est...
Après, s'ils IPO, ça voudra tout de suite 200 voilà. milliards, donc ça sera dilué. Ouais. Hein.
Et il faut pas oublier aussi que parmi les business angels, autour de table, il y a Sam Altman, il y a en fait quasiment tout le
oui,
COMEX.
Toute
le
la famille de l'IA. Ouais.
Donc c'est un peu consanguin.
Ouais. Non, mais le COMEX OpenAI, ils ont tendance à s'entretuer.
C'est le COMEX, ils se parlent encore.
L'IA, c'est un peu consanguin. Non.
Non.
Non, je peux pas.
Je vous apprends un truc ce soir. mais en fait, moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est surtout c'est un peu comme une sorte d'avant-saison, l'avant-saison des grosses IPO qui vont débarquer. Ils vont un peu tester un peu la température du marché. Le marché il réagit très très bien parce que cette IPO est sur souscrite. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui veulent acheter l'action qu'il y a d'actions disponibles. Mm-hmm. Donc ça veut dire que ça sent quand même plutôt bon pour ouais. ce qui va arriver derrière, à savoir l'IPO probable hein, d'OpenAI, d'Anthropic, SpaceX et tout. Enfin, c'est vraiment ouvrir la saison des grosses IPO comme on n'a pas vu depuis des années.
C'est tout ce qu'il nous fallait, une boîte qui perd de l'argent, parce que c'est l'IA qui perd de l'argent. Je crois qu'ils ont perdu 145 millions l'année dernière, ce qui est quasiment rien.
145 millions,
c'est que dalle. Mais tu vois, une boîte qui gagne pas d'argent, qui va faire une IPO au canon, qui va mettre la bulle IA sous maxi stéroïde, extraordinaire.
C'est déjà bien.
Tout n'est pas égal par ailleurs. Là. Donc la liste que tu viens de faire, il y a des situations financières, des niveaux de funding et des attentes de retour sur investissement qui sont de 1 à 100 000. Enfin, je veux dire, on a des variances, oui, donc les investisseurs, ils ne sont pas fous, hein, les institutionnels. D'ailleurs, alors, on dit qu'OpenAI, personne d'autre que les investisseurs privés vont mettre de l'argent dedans à un moment, puisque tout le monde...
Les investisseurs ne sont pas fous. Je pense que la caractéristique d'une bulle, si tu reprends Internet, etc., c'est que tu regardes si les investisseurs sont complètement fous. C'est-à-dire, c'est le principe d'une survalorisation. En fait, toute la question, c'est des profits qui n'ont pas encore eu lieu sur un marché potentiel, à quel point on les valorise. Et oui, les fundings sont pas les mêmes, etc. Mais la réalité, c'est que la tendance, quand elle va être la même, quand elle va être définie, elle va être la même pour tout le monde, tu vois.
Non, t'as raison. Mais quand je dis ils sont pas fous, c'est que, ils savent sortir à temps. La question, c'est est-ce que la bulle éclate? Oui. Est-ce qu'il y a une bulle?
Qui
oui.
Qui sera le dindon de la farce?
Qui va payer? Est-ce que c'est les retail investors, les tech investors ou les grandes banques? Bon, moi, je pense que les tech investors, ils ne vont pas trop payer. Ils savent qu'en sortir au bon moment. Donc, c'est plutôt ça que je voulais dire.
Mais tu as raison parce que, je ne sais pas si vous avez vu là récemment, OpenAI a manqué ses objectifs du premier trimestre. Hein.
Ouais.
Ça, c'est quand même très nouveau. C'est très nouveau. Ouais. Et ça peut...
On explique par le coup du Pentagone, là, parce qu'en fait, Anthropic s'était retiré sur un marché et OpenAI y est allé. Et visiblement, ça a été très impopulaire au sein des utilisateurs, de certains utilisateurs d'OpenAI qui ont, enlevé leur abonnement. Enfin, moi, c'est ce que j'ai lu. Hein,
C'est probablement ce qu'ils ont dit dans la press release. Mais,
oui, en fait,
c'est vrai.
Tu crois pas? Tu crois pas à ça?
Non, mais il y a toute la communauté business a beaucoup switché sur Claude. Beaucoup.
Oui,
beaucoup.
Et puis après, bien évidemment, peut-être
il y a de la concurrence. Et Gemini commence à bien marcher aussi, ouais. Donc je pense qu'il y a ça aussi.
Ouais, je pense que chez OpenAI, il y a des sueurs froides en ce moment. Alors, je serais pas complètement à l'aise chez eux.
Non, c'est clair. On a parlé de Cerebras, on a parlé de Nvidia. Est-ce qu'il y a un autre outsider en termes de puces aujourd'hui?
Il n'y a pas beaucoup de place. Bah, le monde du chipset, c'est une barrière d'entrée monumentale en termes de funding.
Ouais.
Et de talent pour designer des puces, donc c'est pas un truc qu'on peut faire dans son garage a priori. Enfin, je dis ça, mais après, bon, il y a des gars qui ont fait avec un dixième des moyens GPT-4 en Chine, donc on sait pas. Mais a priori, la barrière d'entrée dans le hardware est très haute et dans le chipset, elle est extrêmement haute, donc ça va être compliqué. Non, c'est plus Google continue avec ses TPU,
oui.
Tensor Processing Unit.
Amazon aussi,
et Amazon aussi, ouais.
Ouais.
C'est plutôt Google qui fait du bon travail. Après, Google, ils font des chipsets pour se servir eux-mêmes. Est-ce que ça va devenir un business à l'avenir, peut-être? Ça, c'est.
Non, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que toutes les grandes maisons, hein, ce qu'on appelle les hyperscalers, enfin les Google, font leurs propres puces, vont commencer à faire leurs propres puces. Ils veulent plus être dépendants de Nvidia ou de qui que ce soit. Donc, ils vont tout intégrer verticalement.
Voilà pour ce sujet. Allez, on part en Chine maintenant avec. À la fois, j'ai envie de dire, vous allez voir un thème assez léger, mais assez effrayant quand même aussi. Parce que imaginez votre prochaine amende qui viendra peut-être pas d'un agent de police, mais d'un robot. Imaginez quand même la scène, hein, ça va nous faire tout drôle. En Chine, en fait, c'est déjà une réalité. On n'est pas encore dans Robocop, mais on s'en rapproche doucement. 1000 robots policiers vont encadrer la circulation et contrôler le stationnement des véhicules. Les explications d'Anthony Morel. Et après, bien sûr, on va imaginer ou le meilleur ou le pire avec ce sujet.
Ce qu'ils ont mis en place, les Chinois, alors c'est le pays évidemment où toutes les expérimentations les plus folles en matière de technologie ont lieu, ce sont des robots policiers. Mais quand je dis robots policiers, ce sont des humanoïdes qui vont réellement verbaliser les êtres humains. C'est testé, et j'allais dire, c'est même pas testé, c'est vraiment mis en place là depuis quelques jours dans certaines villes chinoises. Donc humanoïdes, deux bras, deux jambes, un visage même en silicone, une petite casquette, un uniforme, le gilet jaune réfléchissant, le petit badge. La seule différence avec un être humain, c'est qu'ils sont montés sur des roulettes. Donc ils ont des jambes, mais au bout, ils ont un petit skateboard qui leur permet de se déplacer plus facilement.
Mais franchement, à l'œil nu, à 10 mètres, c'est pas
facile. C'est pas facile de faire la différence, effectivement. Surtout sur les grandes intersections chinoises, parce que c'est là qu'on va les mettre. En fait, pour faire la circulation notamment, donc ils bougent les bras, ils peuvent s'adresser aux passants quand il y a des contrevenants ou quand il y en a un qui traverse hors des clous, parce qu'en fait, c'est tout l'intérêt de ces robots, c'est qu'ils sont équipés de caméras intelligentes, ils en ont 6, qui vont être capables de détecter tout manquement à la loi, c'est-à-dire voilà, un conducteur de scooter qui n'a pas son casque, quelqu'un qui traverse hors du passage piéton ou une voiture qui circule un petit peu de travers. Et à partir de ça, on va pouvoir verbaliser, tout simplement. On est capable aussi de reconnaître les plaques d'immatriculation et d'envoyer l'amende directement au domicile de la personne qui ne respecte pas la loi. Alors encore une fois, là on parle d'une entreprise chinoise qui a fourni 1000 robots aujourd'hui à l'État chinois. Et donc ces robots commencent à être déployés dans les grandes villes, sachant que l'idée, c'est pas forcément de remplacer les policiers, c'est plutôt d'intégrer ces humanoïdes dans des endroits où on n'a pas forcément envie de mettre des humains, là où il y a énormément de bruit, à des intersections qui sont extrêmement polluées. Et bien là, on va plutôt envoyer ces petits robots en mission.
Étonnant comme sujet. Alors pour l'instant, ces 1000 robots, si vous êtes avec nous à la télé, on l'a vu, ils sont assez statiques, finalement, ils ne bougent pas, sauf quand ils se déplacent sur des espèces de plateformes à roulettes comme ça. On dirait presque des mannequins avec des caméras, finalement.
Gadget.
Ouais. Enfin, gadget pour toi?
C'est-à-dire que c'est la même technologie aujourd'hui. Il y a des voitures qui se promènent dans le. C'est du vision machine learning. C'est de la reconnaissance d'image, en fait.
Oui, c'est des caméras déguisées en robots, quoi.
Ouais, parce qu'ils prennent pas d'action, ces gens-là. Mais aujourd'hui, il y a déjà des voitures de stationnement qui circulent dans les villes et qui utilisent ces mêmes technologies pour mettre des amendes. Si vous êtes garé sur un passage piéton, ça reconnaît, ça vous l'envoie, ça reconnaît la plaque d'immatriculation. Donc c'est un peu. Après, c'est peut-être une façon d'habituer le public.
Je pense.
Alors il y a une petite nuance quand même, parce que effectivement on a l'habitude de voir dans Paris, dans toutes les villes de France, donc ces fameuses voitures bardées de capteurs qui te mettent une amende comme ça quand t'as pas payé.
C'est bizarre, on n'aime pas beaucoup ces voitures, hein, quand on passe dans notre quartier. En général, on les déteste.
La grosse nuance là que je vois, c'est que, et je crois qu'on l'a pas complètement dit dans le reportage, c'est que les robots peuvent parler. Les robots peuvent dire attention toi, t'es
bagarré. Ils peuvent s'adresser à quelqu'un.
En fait, c'est ça qui est un peu plus flippant quelque part, c'est que pour la première fois, il y a une interaction.
Mais donc c'est quoi? C'est quelqu'un? C'est un opérateur qui va à distance?
Non,
va parler.
C'est le robot qui parle. C'est le robot qui parle.
Waouh.
D'accord. Et c'est lui qui va.
Mais qu'est-ce qu'il va dire?
Il va dire t'es bagarré ou tu vas trop vite, tu tournes à droite, etc.
C'est un GPT robot.
Voilà, c'est ça.
Exactement.
D'accord.
Et c'est ça pour moi la grosse nouveauté, parce que c'est ça qui va complètement changer en fait la façon dont les gens vont accepter ou pas en fait ce genre d'interaction avec moi. Ça me rappelle en fait un film, je sais pas si vous avez vu ce film, il s'appelle Elysium, avec Matt Damon. Donc on est dans le futur, et au début du film, Matt Damon fait partie d'une caste pauvre, et il fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, et il y a un robot tout de suite qui arrive et qui le verbalise ou veut l'emmener en tout cas en prison, etc. Et il n'y a pas moyen de transiger. Il est obligé, et sous peine de mourir sinon.
Ouais.
Donc c'est ça, c'est quelle souplesse. Hein. On a tous eu parfois des discussions avec des gendarmes ou des policiers. On arrivait toujours un petit peu à négocier.
Oui, après il y a l'humain qui, c'est vrai, qui peut un sourire, une explication.
Exactement.
Voilà.
Là, il n'y aura pas d'explication.
Ben non, là, ça ne marchera pas.
Tu files droit ou je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, mais ça sera intéressant.
C'est intéressant quand vous dites faut habituer les gens. Il faut aussi avoir en tête que la résistance et la méfiance vis-à-vis de la technologie culturellement n'est pas du tout la même en Chine qu'en Europe. C'est-à-dire que l'adoption est beaucoup plus facile. Les gens ont moins cette réticence. Tu vois, par exemple, le système à points avec reconnaissance faciale, etc. Bien, les gens, ils l'ont accepté assez vite. De toute façon, tu me diras, ils n'ont pas trop le choix. De la tech n'est pas la même. Tu vois, eux, ils ont la super app WeChat. Tu vois, tu vois une personne dans la rue, les mendiants ont leur code WeChat, par exemple.
Pour leur donner de l'argent.
Ouais. C'est pas du tout la même, mais ce qui est très smart, vu que quand t'as plus de liquide aujourd'hui, c'est plus simple. Mais le lien à la technologie et les craintes liées à la technologie sont pas les mêmes. Après, moi, je le vois plutôt comme une expérience. C'est-à-dire que, pour moi, c'est juste un moyen un peu détourné et qui fait un peu de pub, de subventionner la robotique. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, ce que tu disais, c'est que une voiture qui se balade dans les rues de Paris, c'est pas tout à fait la même infrastructure derrière. C'est-à-dire que là, il faut être capable d'analyser l'environnement en temps réel. C'est couplé aux bases de données, d'après ce qu'on a compris, de la police pour être capable de prendre des décisions, d'analyser des situations, etc. Je veux dire, la prouesse technologique, elle est moins dans la robotique que dans l'infrastructure. Mais le truc, c'est que si derrière, on arrive à faire avancer, entre guillemets, les Chinois, le marché du robot en disant, OK, on a une perception, on a une décision, on a une intervention, tu commences à avoir une accélération, c'est un bac à sable géant sur qu'est-ce que je peux faire à des robots, pas seulement policiers dans la vie, pour nous permettre, nous, la Chine, qui, contrairement aux années 2015 où Botson, manifestement, on devient le marché numéro un du développement de robots, ça fait de la R&D à grande échelle qui vont nous permettre de prendre des années d'avance sur ce marché en général. Surtout que...
Bah, déjà en avance.
Enfin, justement.
Non, mais... Au CIS, toutes les entreprises de robotique, c'était des Chinois.
C'est ce que je dis, c'est que Boston Dynamics, c'est plus du tout les leaders, et que là, ils ont des expérimentations. C'est le côté un peu world model de Yann LeCun, tu vois, des expérimentations avec des prises de décision et d'intervention en direct pour des robots dans la vraie vie, qui sont un bac à sable qu'on peut absolument pas se permettre en Europe, notamment tout ce qui est éthique. Après, avant nous d'avoir ça, ça va être compliqué, quoi.
Oui, je me posais juste une question en regardant les vidéos là qui sont dans le studio, où on voit justement, pour tous ceux qui sont avec nous à la radio, ces robots évoluer et voilà, siffler, indiquer les directions, etc., etc. Est-ce que on est prêt à avoir une autorité sur ces robots? Enfin, ou en tout cas, est-ce qu'on va respecter l'autorité d'un robot? Autant on peut, et on se rend compte, c'est de plus en plus compliqué de respecter l'autorité d'un policier aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, c'est la société qui est comme ça. Mais est-ce qu'un robot va être autoritaire? Est-ce qu'on va respecter la décision d'un robot qui sera déguisé en policier?
Ben, tout dépend s'il y a une...
Tu vois ce que je veux dire?
Une contrainte, si tu commences à le renverser parce qu'il t'a dit d'aller à droite et t'as pas envie, et si tu le fonces...
Non, mais c'est une question un peu philosophique, mais est-ce qu'on est prêt à se plier à l'injonction d'une machine?
C'est un peu ce qu'ils sont en train de tester.
Ouais.
Ils testent ça, bien sûr.
Le bémol que je mettrais, c'est que en fait, ces robots, ils sont... Bon, voilà, il y a des cinématiques. J'ai pas l'impression qu'ils prennent des mesures ou qu'ils fassent progresser des modèles d'action. C'est-à-dire qu'ils portent pas des choses, ils transportent, ils arrêtent pas des gens, ils passent pas les menottes. Ils font vraiment quelques gestes qui sont prédéterminés. Donc ils sont vraiment sur Vision ML, machine learning, j'essaie de parler en français, et les modèles de langage.
Oui, reconnaissance visuelle.
C'est des technologies qu'on connaît déjà, qui sont packagées dans un robot au lieu d'être dans une voiture et dans un smartphone et dans une caméra. Donc c'est plus une expérience sociale a priori qu'une expérience technologique, parce qu'on sait qu'il y a déjà en Chine des robots, là, quand on les voit bouger, pour ceux qui ont les images, qui sont infiniment plus agiles et autonomes dans leur utilisation de l'espace. Et ça en fait, c'est un autre sport, c'est une autre ligue, en fait, ce truc-là.
C'est pour ça que je pense que c'est beaucoup un terrain d'entraînement pour la robotique. Après, il y a un terme qui est important, ça me rappelle mes anciennes années de juriste. La police, c'est quoi? C'est le monopole de la violence légitime. Bon, bah, tu respecteras les robots le jour où, comme la police, ils ont le monopole de la violence légitime.
Mais l'acceptation sociale de la tech, c'est un sujet, ce dont tu parlais, qui, par exemple, on parlait de la VR tout à l'heure et de l'AR, c'est un sujet au cœur des préoccupations, en fait, par exemple, chez Meta, de l'acceptation. Est-ce que j'accepte, est-ce que si j'ai des lunettes de réalité augmentée, que j'ai une caméra qui filme, qui va aller chercher... ton background, des informations sur toi pendant que je te parle, et si on est en train de débattre, qui va me donner un avantage, des super pouvoirs, est-ce que c'est acceptable? Et comment est-ce qu'on le signale à l'autre? Donc, cette problématique-là, elle est vraiment au cœur de l'adoption. Et chez nous, l'adoption, pour l'instant, et j'espère pour longtemps, elle est, il faut convaincre l'individu. Elle n'est pas forcée. Et donc, eux, ils sont en train d'essayer de tester. Ils ont une coercition différente, une approche différente.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, le rapport de l'humain et de la technologie. Rappelons ce qui s'est passé au tout début des Waymo, à San Francisco. Il y avait des gens qui leur jetaient des pierres, qui essayaient de perturber le fonctionnement de ces machines-là, parce qu'il y a eu une résistance.
Le grand trauma, c'était les Google Glass.
Et les Google Glass.
Où ils appelaient les gens les Glass Holes. Et ça, c'était vraiment ce dont tout le monde avait peur, nous, quand on travaille là-bas.
Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on évoque le dernier sujet de ce débrief sur Tech & Co. C'est Meta qui, fait une nouvelle acquisition d'une boîte qui s'appelle Assured Robot Intelligence, qui est en fait une start-up dédiée à l'IA embarquée pour la robotique. D'après ce que j'ai compris, Mark Zuckerberg n'a pas forcément envie de créer de nouveaux robots au niveau du hardware, mais peut-être de mettre au point un OS de la robotique qui pourrait après se dupliquer sur des robots qui pourraient être chinois, européens, etc., etc. Un peu un Android du robot, finalement. Alors c'est vrai qu'il a pas eu son OS et je pense qu'il a du mal à digérer sur les smartphones. Il aimerait bien peut-être ne pas rater le tournant de la robotique, non?
Il travaille sur l'OS des lunettes. Si les lunettes remplacent les smartphones et qu'elles ont des écrans, des caméras, etc., l'idée, c'est d'avoir l'operating system, l'écosystème. Ça, c'est la guerre de l'écosystème. Et pour les robots, c'est le coup d'après, effectivement. Et il faut acquérir des robots parce que c'est pas du tout la même chose que les modèles de langage, les modèles de vision dont on parlait à l'instant. Le déplacement, on en a parlé juste à l'instant là sur les robots chinois. Le truc, c'est que s'il faut que le robot prenne une action dans l'espace, il faut qu'il comprenne l'espace, le réel. Et ça n'est pas du tout le cas des modèles transformeurs qu'on a aujourd'hui, des modèles de vision, des modèles de langage. Donc il faut une armée de robots, une armée de capteurs, capter de la donnée et trouver des architectures de modèles qui sont capables d'exploiter cette donnée. Et on va revenir sur le boucler par l'entraîning en inférence. Et là pour l'instant, on est au tout début
de l'histoire. Ouais. Fred et après Lucas pour terminer.
Moi, je pense que Zuckerberg, en tout cas l'équipe dirigeante, tu me corrigeras si c'est faux, mais
je suis sous NDA.
Je pense qu'ils sont un peu en panique là. Ils sont un peu en panique dans le sens où tout ce qu'ils ont fait là depuis 5 ans n'a pas complètement donné leurs fruits. On parle du métavers, il y a quand même 60 milliards d'investissements dans le métavers qui n'ont pas donné grand chose. Il y a tous les investissements sur les AI, sur les LLM, Llama notamment, qui s'est fait rattraper alors qu'ils avaient pourtant des bonnes équipes et tout, mais ils se sont fait rattraper par Anthropic.
Llama n'a jamais été au niveau.
Il s'appelle MuSpark maintenant.
Ouais, oui, c'est ça. Ça marche mieux.
L'acquisition de ratée de Manus donc en Chine. Donc là aussi, ça sent un peu quand même la panique dans mon esprit. Ça sent un peu la panique.
Si je peux juste donner un point de vue.
Et après, on terminera avec Clément.
C'est pas du tout une panique. C'est un modus operandi.
Ouais.
Zouk, il veut toujours jouer sur le coup d'après. Il a des moyens phénoménaux et il va mettre, pour parler de poker, all-in sur tous les coups. Et il sait que parfois il va gagner, parfois il va perdre. Et on sait que c'est des big bets. C'est des paris qui ont peu de chances d'aboutir, qui coûtent très cher. Mais il si disait toujours ça. Il disait, si tu gagnes,
c'est
tu
la
gagnes. Il disait, les gens qui ont commencé à faire Android, si on t'avait dit combien ça coûte, eh ben, t'aurais pas, quelle valeur ça a Android aujourd'hui ou iOS? Ouais. Ça a une valeur infinie. Donc il faut parier sur, si je peux, ouais, je parie sur tout, je développe tout, j'absorbe tout. Et je vais perdre 99 paris sur 100, mais celui que je vais gagner, c'est moi qui vais dominer. Donc c'est pas du tout une panique, c'est vraiment un mode opératoire standard.
Ouais, en fait, non, ce que vous avez dit, c'est le mot intéressant, c'est plateforme. C'est-à-dire qu'en fait, on dit souvent sur ce plateau, pour l'instant, tu vois, dans, côté LLM, t'as OpenAI qui se bat, par exemple, pour être la plateforme sur laquelle les gens... on veut pas juste être le modèle dessous, on veut être la plateforme où les gens vont naturellement...
La distribution.
On, tu vois, on veut qu'ils, là, c'est là qu'ils prennent des décisions, c'est là qu'ils réfléchissent, c'est là que tu peux les influencer, c'est ça qui vaut de l'argent. Pas ça, c'est le même move, mais sur l'aéromotique, c'est juste le même problème, quel que soit le support, on en revient aux mêmes enjeux. Après, il y a un avantage énorme qu'a Meta, et c'est ce que t'évoquais aussi pour quand tu parlais d'Ray-Ban. Je prends une citation du cofondateur là de cette entreprise Aery là, qui disait « Le scaling viendra de l'apprentissage à partir de l'utilisation de données liées à l'expérience humaine. Qui sur Terre a plus de données liées à l'expérience humaine que Meta avec ses réseaux sociaux et maintenant ses Ray-Ban ? Personne. La synergie, elle est folle. »
Ouais. Ben voilà, ça sera le mot de la fin. Top, merci beaucoup à tous les trois. Merci pour ce débrief. Frédéric Krebs, président de Krebs and Partners. Lucas Perraudin, président de AI to Market. Et Clément David, président de Theodo Cloud. Pour terminer ce débrief, merci beaucoup messieurs.
Avec plaisir.
C'était encore une fois hyper intéressant. Et vous restez avec nous. Tech & Co revient juste après cette petite pause. On découvrira un film français réalisé avec l'IA. À 100%, vous allez voir, c'est un truc incroyable, et on recevra Philippe Chanty qui est le réalisateur de ce film, qui a fait ça avec de l'intelligence artificielle. Et puis juste après, je recevrai le patron France de Motorola qui nous annoncera 8 nouveaux smartphones. Motorola qui essaie de revenir un petit peu dans, on va dire, le marché du smartphone. Vont-ils y arriver? C'est l'une des questions qu'on posera tout à l'heure à mon invité. Petite pause, et Léa Benaïm nous rejoint pour le Tech Flash, bien sûr, comme chaque soir. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash.
Tech & Co, la quotidienne, merci d'être là, très bonne soirée. Et comme chaque soir, à peu près à la même heure, aux alentours des 20h30, on plonge dans l'actutech du jour, le condensé de l'actutech de ce mardi. C'est le Tech Flash et c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa.
Bonsoir François et bonsoir à tous. Et à la une, Washington pourrait retourner sa veste en matière de régulation et envisagerait de vérifier les modèles d'IA avant leur mise sur le marché, une sorte de contrôle technique pour s'assurer qu'il ne présente pas de risque, notamment en matière de cybersécurité. Le déclic aurait été la sortie de Mythos, le modèle d'Anthropic jugé trop puissant pour être rendu public sans danger. Également dans l'actualité, la signature du contrat entre Google et le Pentagone ne passe pas en interne. Au Royaume-Uni, les salariés de DeepMind, préoccupés par l'utilisation militaire de leur technologie, demandent la reconnaissance de 2 syndicats. Ils réclament aussi la création d'un comité d'éthique et l'engagement de ne pas développer d'armes et d'outils de surveillance basés sur l'IA.
Et puis Léa, Apple qui chercherait à réduire sa dépendance envers TSMC pour la production de ses puces maison.
Et oui, selon Bloomberg, l'entreprise envisage de faire appel à Intel et Samsung pour se diversifier. Aujourd'hui, 60% de la production d'Apple est concentrée à Taïwan, ce qui pose problème dans un contexte de tensions à la fois industrielles et géopolitiques. En parallèle, relocaliser une partie de la production aux États-Unis est aussi une manière de faire plaisir à l'administration de Donald Trump. Et puis d'ici vendredi, les conversations privées d'Instagram ne seront plus couvertes par le chiffrement de bout en bout. Une sécurité qui existe depuis 3 ans mais qui n'était pas activée par défaut. Meta justifie sa décision par un manque d'usage et un besoin de mieux modérer les contenus. Et enfin, le smartphone le plus vendu en ce début d'année est, roulement de tambour, l'iPhone 17. À lui seul, il pèse 6% des ventes mondiales selon les données de Counterpoint, suivi du 17 Pro Max et du 17 Pro. Un tir groupé pour Apple qui occupe à lui seul les 3 premières places du podium. Derrière, on retrouve les modèles d'entrée et de milieu de gamme de Samsung et enfin Xiaomi en 10e position. Et pour finir, je vous donne rendez-vous ce soir à 22h30 sur BFM Business pour Tech & Co Business, votre rendez-vous en compagnie de Frédéric Simotel. Et au programme cette semaine, et si un jour le métier de développeur disparaissait, il serait remplacé par l'IA? On écoute un extrait.
Nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que maintenant, écrire du code, c'est devenu un anti-pattern. Ouais. C'est-à-dire, il faut considérer qu'une intelligence artificielle, maintenant, elle est capable de produire du code globalement de meilleure qualité que la plupart des ingénieurs. Mmh. Ça, il faut maintenant l'accepter, ouais, oui, en fait. Et donc, notre métier, le métier d'ingénieur et de développeur qui historiquement était de dire, on va rédiger du code, maintenant, on peut complètement confier ça à une AI.
Et du coup, qu'est-ce que ça change, enfin, pour les métiers, parce que j'imagine il y a quand même une crainte, là c'est 1000 personnes, c'est sûr, mais bon, dans l'ensemble, on est quand même un pays où on a de belles ESN, il y a quand même une crainte un jour de se voir un peu perdu dans tout ça, et je posais la question en ouverture, et si des développeurs disparaissaient, elle est vraiment présente, cette crainte dans les équipes, alors celles que vous côtoyez dans mon quotidien, mais globalement chez...
Moi je dirais que c'est plutôt un sujet qui est de l'ordre du fantasme, c'est-à-dire on aura toujours besoin de gens qui construisent du système d'information. Mm-hmm. C'est une certitude.
Et voilà, retrouvez Tech & Co Business avec Frédéric Simotel et ses invités en replay sur le site de BFM Business. Il est 20h35, qu'on va parler d'IA avec ce film. Ce serait le premier long métrage réalisé exclusivement par l'IA. Et on en parle tout de suite avec mon invité.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Bonsoir Philippe Chanty.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous de me recevoir.
Alors, sur ma fiche, j'ai marqué réalisateur, mais je crois que vous êtes un peu plus que ça. Vous êtes un artiste, photographe français. Vous êtes né à Toulouse. Vous êtes connu pour une esthétique, on va dire, de vos œuvres très pop, provocatrices, glamour. Voilà, et vous avez une belle notoriété. Hein. C'est intéressant de découvrir vos œuvres. Vous êtes un vrai créatif. Mais vous n'êtes pas pour nous parler de ça ce soir. Vous êtes là pour nous parler d'une avant-première qui aura lieu le 7 mai prochain, c'est-à-dire après-demain, au Grand Rex, d'un film dont vous êtes le réalisateur, qui s'appelle The Future 2320, c'est comme ça qu'on dit ?
Exactement.
Voilà, qui est totalement réalisé par l'intelligence artificielle. Et quand j'ai vu passer cette info, je me suis dit, il faut absolument recevoir Philippe pour qu'il nous explique comment il a fait, parce que c'est un film qui doit durer quoi ? 90 minutes, j'imagine ?
90 minutes, 1h37 exactement.
1h37 ?
Exactement.
Et donc, il a été fait à 100% ?
100% en intelligence artificielle. Et c'est un accident. C'était pas prévu.
Alors, racontez-nous.
À la base, tous les ans, moi, je réalise, donc, comme on le disait, des photographies. Mmh. Je fais des nouvelles collections. Et je dénonce très souvent des messages forts, le déni de la vie. J'ai dénoncé la maltraitance animale. J'ai dénoncé le sujet du jugement physique l'année dernière. Et là, cette année, ça faisait 2 ans que je travaillais sur un sujet qui était le futur, l'arrivée un petit peu, envahissante de ces nouvelles technologies, des IA. Et même moi,
pernicieuse, on pourrait dire.
Exactement. Même moi, en tant que photographe, j'en ai eu peur. Mais vraiment, des angoisses. Ça m'a fait très peur.
C'est-à-dire que vous vous êtes dit, l'IA va bouffer mon travail, en fait, et va me remplacer ? C'est ça ?
C'est ça, tout doucement. C'est arrivé. Au début, c'est un jeu. On voit des gens qui s'amusent avec, sur les réseaux sociaux, qui l'utilisent, pour la tester.
Vous avez votre téléphone IA qui
exactement,
sonne.
Exactement, c'est un appel du futur. Donc, je suis obligé de rester connecté.
C'est peut-être vos proches qui vous voient sur BFM Business, qui voulaient voir si c'était vraiment vous. C'est pas de l'IA.
C'est pas de l'IA, c'est le vrai. Philippe. Il est là, il est en chair et en os.
Et donc, alors, l'accident, mais comment vous êtes... Alors, je comprends votre réflexion. Vous vous dites, l'IA, il ne faut pas qu'elle remplace l'humain, et notamment l'art, ok ? Mais là, ce que vous avez fait, c'est carrément
c'est l'opposé.
Carrément ça, en fait.
C'est complètement l'opposé, mais avec... je suis rassuré aujourd'hui. Je suis rassuré. Parce qu'en fait, c'est un outil qui est très puissant. On nous l'a un peu imposé indirectement, hein. Il est arrivé partout. Aujourd'hui, on voit quand même, dans les écoles, on n'apprend pas l'IA, on apprend l'IA nulle part. Il y a des genres de masters qu'on peut découvrir aujourd'hui en ligne, des gens qui se disent experts. Mais réellement, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est comme si on nous avait mis une Formule 1 un matin dans un garage, on nous dit...
Allez, tiens, maintenant tu vas chercher le pain.
Parce que c'est réellement une Formule 1. Pour quelqu'un de créatif, il n'y a plus de limites.
C'est intéressant parce que vous êtes passé de la posture « je me méfie de cette technologie-là et c'est un ennemi » à, et c'est ça qui est génial, et c'est ça que tout le monde devrait faire en fait avec l'IA, comprendre comment elle fonctionne, l'embrasser finalement, pour que ça devienne un outil créatif.
Exactement. Au départ, moi j'en ai eu peur, comme je le dis, moi je suis photographe, pour moi c'est la photographie, j'en fais depuis l'âge de 5 ans, l'image elle est importante. Et donc je la rejette. Et je me dis, bon, À un moment donné, il va falloir s'y mettre, parce que je vois qu'on l'a partout, elle est présente. Et je me dis, pourquoi pas dénoncer encore un fléau et dénoncer le déni de l'utilisation de l'IA. Parce que moi, en cachette, je commence à l'utiliser. Des photographes l'utilisent en cachette, personne n'ose le dire. Tout le monde l'utilise. Ceux qui ne veulent pas l'utiliser finissent par l'utiliser, parce que maintenant, on nous l'impose indirectement. Donc, je me suis dit, bon, ben, on va faire une collection 100% en IA. Je n'utilise pas mon appareil photo. Et je fais des œuvres photographiques qui vont dénoncer donc ce sujet. Et il s'avère qu'à un moment donné, ben, il faut présenter sa collection. Et je me dis, ben, comment je fais ? J'ai pas de making-of, j'ai rien filmé. Et puis, c'est pas très glamour de filmer un artiste en train de générer des prompts.
Non, 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 c'est vrai que c'est moins...
D'écrire. Et puis, on n'est pas dans les studios, et puis il n'y a pas toute l'équipe autour. Donc, c'est bon, il n'y a rien de vraiment intéressant. Je me dis, je vais faire un teaser, tout en IA aussi, qui va présenter ma collection. Et donc, je fais un teaser qui dure à peu près une dizaine de minutes. Et là, c'est là où il y a eu un accident, en fait. Je le dis comme un accident parce qu'en fait, j'ai perdu mon papa, moi, du cancer du pancréas. C'était il y a 6 mois maintenant, donc c'est encore tout chaud.
Ouais.
Il est parti très vite, en 1 mois et demi. Et c'est ça qui a été le déclencheur. Je ne m'en suis pas aperçu. Et en fait, j'ai voulu faire un petit hommage à mon papa dans le teaser. Et je le montre à ma maman. Et je lui ai dit, regarde, le teaser de ma nouvelle collection qui va sortir. Et j'ai fait un petit clin d'œil à papa. Tu m'autorises ? Et regarde.
Parce qu'on voit votre père ?
On voit mon
généré
père
par l'IA dans le...
Mon père est dans le film. Il est généré en IA.
Ouais.
Et puis pour moi, ben, ça a été, on va dire, un genre de thérapie.
C'est là où vous avez fait la bascule ?
C'est là où j'ai fait la bascule, surtout de me dire, ça a quand même été déjà assez compliqué d'arriver à faire 10 minutes. Parce que c'est pas facile, déjà, de travailler avec les IA. Donc j'ai travaillé, j'ai généré pour 10 minutes. J'étais content, je fais mon teaser, un hommage à mon papa, un petit clin d'œil.
Mmh.
Et là, je m'engage aux yeux de ma maman à lui dire, écoute, on verra papa sur un grand écran au cinéma et tu seras assise dans une salle. Et je m'engage à ça. Et dans, du coup, ben, je me suis mis la pression.
C'est devenu un défi.
C'est voilà. Devenu un défi, mais je ne me suis pas rendu compte qu'en fait, il fallait que je sorte aussi ma collection.
Okay.
Je voulais qu'il y ait un sens du coup, à ce film, qui était un fil conducteur.
Mm-hmm.
Du coup, mes œuvres, mon message. Et puis, ben, je n'avais pas préparé. Je ne me suis pas basé sur un roman, je me suis basé juste sur mon histoire à moi. Et c'est là où ben, j'ai dû aller très vite. Et je faisais au jour le jour, en fait. J'avais mes idées, je promptais. Mes idées, je promptais.
Alors, parce que, en fait, la communication, c'est rigolo, parce que vous êtes venu avec une cassette VHS du film. J'adore le contraste entre le côté vintage et la technologie la plus avancée, finalement. Quand vous dites que c'est le premier long métrage réalisé à 100% avec l'IA, parce que ça pose plein de questions. Le scénario, les images, la voix, la musique, le montage, sous-titres, enfin, je sais pas s'il y en a, mais l'étalonnage, etc. Est-ce que tout est de l'IA, ou est-ce que malgré tout, il y a des métiers traditionnels du cinéma qui sont intervenus dans ce film.
Alors, moi, n'étant
c'est,
pas...
C'est la vraie question.
C'est ça.
Parce qu'on peut se dire, finalement, est-ce qu'un petit génie du créatif, avec un ordi et un compte cloud, peut faire un vrai film qui sera aussi bien qu'un Star Wars, quoi.
Oui.
Comme une Billie Eilish qui, avec son Mac, fait un album entier, finalement.
Tout est possible, il faut juste l'idée. Le temps, l'énergie, mais il faut l'idée à la base. Il faut que la personne ait l'idée. S'il n'a pas l'imagination, il ne pourra pas y arriver. L'IA, c'est un outil. C'est un simple outil, en fait. Donc, ensuite, cet outil, il faut savoir l'utiliser, le maîtriser. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, qu'on n'en a plus peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui jugent l'IA sans savoir de quoi ils parlent.
D'accord.
Je pense qu'il faut qu'ils apprennent à regarder avant de juger, à utiliser. Et parce qu'une fois qu'on a pris confiance et qu'on la maîtrise, ben ça devient vraiment confortable. Et pour les créatifs, on n'a plus de limites. Il n'y a plus aucune
limite. Mais vous vous rendez compte que vous êtes en train de bouleverser toute une industrie, finalement. Parce que ce film-là, il n'y a pas de comédien, il n'y a pas de réalisateur, il n'y a pas de scénariste, il n'y a pas d'effets spéciaux. Enfin, c'est terrible. Vous mettez au pied du mur toute une industrie, finalement.
C'est un petit peu, comme je le répète, moi, ça a été un accident. Donc, je me suis dit, je me jette à l'eau,
on y va. Et après-demain, vous êtes en avant-première au Grand Rex.
Exactement. Mais à l'intérieur de ce film,
ils vont tous vous tomber dessus. Là,
des véritables acteurs qui n'ont pas tourné. J'ai eu la chance de pouvoir valider un casting avec des cascadeurs qui n'ont jamais fait de cascade. En fait, je me suis dit, on va se jeter à l'eau, on y va.
D'accord.
Et puis on va, pour comprendre, se lancer. Parce que c'est là où on va comprendre. C'est passer à l'action. Ce film aujourd'hui, il est en avant-première au Grand Rex, ok, il est en projection privée pour l'instant. J'espère qu'on va pouvoir le faire découvrir au public le plus vite possible.
C'est-à-dire que là, vous faites un coup de com' finalement en le proposant en avant-première au Grand Rex.
Alors,
il ne va pas sortir au cinéma après.
Pour moi, le but, c'est qu'il sorte au cinéma.
Donc il faut qu'il ait, après qu'il rentre dans un réseau de distribution.
Exactement.
Et vous pensez que l'industrie du cinéma va accepter ce type de...
On l'espère. On l'espère, et sinon, j'ai déjà ma petite idée au cas où.
Okay.
Mais quand j'ai une idée derrière la tête, je veux aller jusqu'au bout. Donc,
une question.
Je pense qu'il n'y a rien qui va nous arrêter.
Est-ce que quand on regarde ce film, on voit que c'est un film qui n'est pas fait par des humains, qui est un peu l'IA, ça fait un peu jeu vidéo.
Techniquement, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur le film, j'ai mis 3 mois pour le générer. Il y a 145 000 frames, on appelle, donc images à l'intérieur. Il y a plus de 45 000 prompts. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le temps de la réalisation du film, l'évolution de la technologie avancée.
Combien de temps vous avez mis pour faire ce film ?
J'ai mis réellement, pour le finir de A à Z, à peu près 4 mois.
Mais entre le moment où vous avez commencé, par exemple, je sais pas, moi, il y a 4 mois, c'était peut-être à la rentrée dernière, je dis n'importe quoi, entre la rentrée et Noël, alors que vous n'aviez pas terminé le film, les outils ont évolué technologiquement.
Ont évolué. Voilà. Et moi, je les maîtrisais déjà en photographie. Et là, je commençais à tâtonner sur les outils vidéo pour avancer sur mon teaser à la base. Donc, comme je dis, je faisais un bon teaser. Et puis après, j'ai pris une extension vraiment des outils.
Vous avez pris quoi comme outil, tiens? Ceux qu'on connaît, les Sora, les Gemini, enfin.
Alors, bon. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs générateurs aujourd'hui qui sont sur le marché et il y a beaucoup de sites sur lesquels on peut les retrouver, comme des distributeurs, comme des plateformes sur lesquelles on peut exploiter le générateur. Mais après, aujourd'hui, Ils sont pas très nombreux. Il y a Kling 3, il y a Seedance, on a du Sora.
Seedance qui avait impressionné tout le monde avec ce combat entre Brad Pitt et Tom Cruise.
Exactement. Donc c'est ça. En fait, le problème, c'est l'utilisation de cette manière-là qui fait peur aux gens.
Oui, bien sûr.
Puis en plus, ça a été utilisé à l'insu. Ils ont pris des images de grands acteurs.
Vous n'avez pas répondu à ma question. Quand on regarde ce film, est-ce qu'on voit que c'est de l'IA ou est-ce qu'on peut se dire, OK, c'est un vrai film avec de vrais comédiens?
Alors, il y a le début qui commence avec les générateurs que j'avais au tout début des 3 mois. Et plus on avance dans le film, plus c'est réaliste. Et j'ai voulu garder cette essence, puisque c'est le premier film en IA.
D'accord.
Je voulais qu'il marque justement le temps et qu'on comprenne tous les mécanismes et l'évolution à l'intérieur de ce film. Donc oui, on a des images qui sont bluffantes, vraiment bluffantes.
Mais d'autres moins, c'est ce que vous dites aussi.
Et d'autres qui sont moins, mais c'est volontaire.
Ok, d'accord.
C'est un choix, parce que j'aurais très bien pu les faire toutes.
Un film comme ça, avec des comédiens, avec des scénaristes, ça coûterait beaucoup d'argent, même si c'est un petit film, il faut quand même un budget. Ça vous a coûté combien de faire un film comme ça ?
Alors là, aujourd'hui, ça m'a coûté, c'est une enveloppe de... On est en dessous de 100 000 euros à peu près.
D'accord.
Voilà.
Pour 90 minutes de film.
90 minutes de film.
Avec une vraie histoire.
Avec une vraie histoire, et c'est pas que. C'est-à-dire qu'il y a une immersion artistique à l'intérieur. C'est un film aussi où on ressent vraiment qu'il y a un travail artistique.
Il y a
ma patte, et le but c'était d'accompagner le spectateur tout le long de l'histoire jusqu'à une immersion 3D de 7 minutes. Et à un moment donné, on a des lunettes qui sont fournies en 3D dans le cinéma. Et pendant 7 minutes, on est projeté dans le futur.
Ok, d'accord.
Voilà, j'emmène tout le monde avec moi dans le futur. Et pareil, j'ai utilisé, là on voit, c'est un VHS qui porte le film, parce que le film est bien là, il est avec moi. Il y a aussi l'anaglyphe que j'ai utilisé, c'est l'ancienne technologie 3D.
D'accord.
Et j'ai voulu montrer aussi qu'on pouvait mélanger tout. Avec les IA, on peut aussi garder l'essence des origines du cinéma, des origines... Voilà, moi, c'est pas mon domaine, le cinéma, j'arrive ici par accident, ça, je le répète. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut surtout pas avoir peur des IA.
Il faut pas avoir peur des IA, mais on voit que tout le secteur du cinéma va être bouleversé par tout ça. Est-ce que vous avez montré ce film à des professionnels du cinéma ou
exactement,
pas encore?
Exactement, oui, j'ai montré à des professionnels et ça les a bluffés. Au début, ils y croyaient pas, ils m'ont dit « mais t'as fait ça en si peu de temps, il y a 1h35 », ils m'ont dit « t'es un grand malade ». Et après, réellement, comme je dis, j'ai eu un déclic, je me suis enfermé chez moi. J'ai bossé jour et nuit, mais jour et nuit, jour et nuit. Et j'ai quand même créé 45 000 prompts à peu près pour faire ce film. Donc je sais pas, en fait, quand on calcule, ça fait bizarre, mais ça me donne la chair de poule. Je me dis, je sais pas comment j'ai fait. Voilà.
Bon, en tout cas, merci d'être venu sur le plateau Tech & Co pour nous expliquer tout ça, votre aventure qui est aussi très intéressante et le résultat à voir. Donc, si vous êtes à Paris au Grand Rex, ce sera après-demain en avant-première. Merci beaucoup.
Merci
Philippe.
Beaucoup pour votre invitation.
Mais avec plaisir. Philippe Chanty, donc réalisateur avec ce film, ce premier long métrage réalisé à 100% avec l'IA, en espérant que peut-être demain on puisse le retrouver sur des plateformes, c'est YouTube ou pourquoi pas, hein, si. On verra bien.
Une certitude, je l'espère.
Merci beaucoup. Et tout de suite, direction la rédaction de Tech & Co, comme chaque soir.
Tech & Co, la quotidienne. La chronique BFM Tech.
J'accueille Salomé Ferrari maintenant sur le plateau de Tech & Co, journaliste à BFM Tech. Bonsoir Salomé.
Bonsoir.
Et 9 secondes, c'est tout ce qu'il a fallu à un agent IA pour effacer une entreprise entière. Le cauchemar. Alors comment un tel accident a pu se produire ?
Eh bien la réponse tient en un point, les permissions accordées à cette IA. Tout commence en fait avec Pocket OS, une entreprise qui développe des logiciels pour les loueurs de voitures. Elle gère les réservations, les clients, les logiciels. Sauf que fin avril, son fondateur Jeremy Crane a découvert qu'un agent IA un petit peu trop zélé, avait supprimé l'ensemble des bases de données de l'entreprise et même les sauvegardes internes.
Bien sûr.
C'est ça, forcément, c'est
trop possible. Autrement, ça aurait été beaucoup moins rigolo.
Exactement, et tu l'as dit, en 9 secondes, donc ça a été très rapide. Hein. L'outil en cause, ce serait Cursor, donc un agent de codage qui est basé sur le modèle Claude Opus d'Anthropic. Résultat, 3 mois de réservation effacées, les infos des clients disparues et surtout des loueurs totalement désorganisés.
Ce qu'on ne comprend pas, c'est que comment il n'y a pas eu de garde-fou finalement ?
Bah, c'est ça qui est troublant, parce que l'agent d'IA avait été programmé pour suivre des instructions très très claires et notamment l'interdiction total d'exécuter des commandes destructives sans validation explicite. Sauf qu'apparemment, ça ne l'a pas arrêté. Hein. L'agent d'IA lui-même l'a reconnu. Il a enfreint ses propres règles de sécurité. Finalement, Pocket OS a parvenu à restaurer une partie des données grâce à des anciennes sauvegardes et à des outils annexes, mais tout n'a pas été récupéré. Alors pour Jeremy Crane, le PDG, c'est loin d'être un simple incident, c'est vraiment un signal d'alarme. C'est la preuve qu'on développe des outils d'intelligence artificielle plus vite que les garde-fous nécessaires. D'ailleurs, Cursor est loin d'en être à son coup d'essai, parce qu'il avait déjà supprimé des systèmes d'exploitation entiers et même des recherches entières pour une thèse datant de plusieurs années.
Incroyable.
Donc, vraiment, c'est pas une première. Donc, c'est la preuve qu'il vaut mieux être prudent avant de confier les rênes de son entreprise à une IA, parce que là, l'agent n'a pas oublié les règles et les a juste décidé de les contourner.
Carrément.
Pourquoi pas, finalement, ben voilà. J'ai envie de te dire.
Bon, bah, écoutez, si vous avez envie de revivre ce drame en direct, allez sur BFM Tech. Salomé vous raconte tout ça à l'écrit, évidemment, sur le site de BFM Tech. Merci beaucoup, Salomé. Et si vous allez sur BFM Tech, vous entendrez forcément parler et vous pourrez lire aussi les nouveautés Motorola. Bah, ça tombe bien parce qu'on va en parler maintenant avec mon invité.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et Pierre-Yves Ortmeyer nous a rejoint. Bonsoir Pierre-Yves.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général de Motorola France. Et oui, Motorola, qui est là, bien ancré en France, après des hauts et des bas. Hein, on se rappelle du Motorola flamboyant au début du GSM, les StarTAC, les Razor, enfin tous ces téléphones mythiques.
Période glorieuse.
Voilà, que personnellement j'ai connu, parce que voilà, c'était le début du GSM, on avait ces téléphones qui étaient incroyables. Et puis après, les smartphones sont arrivés, la baisse de régime quand même, hein, il faut pas se voiler la face. Hein. Il
y a eu baisse quand même régime.
Des secousses importantes.
Première étape, la vente à Google.
Vente à Google, bien sûr.
Suivi de la vente de Google à
Google qui s'est bien fait plaisir avec tous les brevets de Motorola.
C'est ça, qu'on a gardé une partie, et ouais. Donc Motorola a été intégré à Lenovo en 2014.
Voilà, Lenovo... géant chinois du PC, entre autres.
Numéro un mondial.
Voilà, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré l'actionnariat donc chinois, Motorola reste une entreprise véritablement américaine dans son image. Hein. C'est assez intéressant de voir que finalement, cette boîte ne s'est pas transformée. C'est toujours une boîte américaine.
C'est vraiment extrêmement smart, enfin, de la part de l'entreprise, oui. D'être parvenu en fait à mêler deux cultures qu'on pourrait opposer et qui en fin de compte pas du tout, hein, une vraie culture sino-américaine. C'est vrai que Motorola, historiquement, enfin, avec son siège à Chicago, a gardé quand même son ADN et ses positions. Hein. Motorola a gardé des positions hyper fortes de ce côté-là de l'Atlantique, que ce soit aux US où on est numéro 3 ou en Amérique du Sud, mais a eu le, entre guillemets, l'intelligence de vraiment exploiter à 100% la supply chain et tout le savoir-faire industriel d'un groupe comme Lenovo.
Ouais, d'ailleurs, Lenovo a fait pareil avec le IBM ThinkPad, qui était une très très belle idée finalement aussi, qui est l'un des PC les plus vendus,
au
monde.
Best-seller, hein.
Ouais, c'est ça qui est intéressant. Alors, vous êtes avec nous, Pierre-Yves, parce que, eh bien voilà, pour ce printemps, alors là, vous mettez le paquet. 8 nouveaux smartphones sortent en France par Motorola. Vous les avez présentés la semaine dernière. Il y en a pour tous les goûts, à tous les prix. Hein, ça commence à 229 euros et on monte jusqu'à 1499 euros. Première question, est-ce que vous êtes arrivé à recréer une image qui soit crédible auprès des utilisateurs? Parce que c'est vrai que pendant longtemps, Motorola avait cette image, on va dire, d'anciens un peu des télécoms. Aujourd'hui, c'est toujours le cas ou vous avez réussi à changer un peu cette posture?
On n'a pas de problème de notoriété.
Non, tout le monde connaît Motorola.
C'est-à-dire que quand on prononce Motorola, voilà, les gens connaissent.
Bien sûr.
Il faut segmenter un peu.
Un peu comme Nokia, finalement.
C'est ça. Et il faut segmenter un peu les tranches d'âge. Donc, pour les plus jeunes, c'est moins vrai. Et donc, pour nous, ça a vraiment été un enjeu que les utilisateurs de demain nous connaissent. Et donc, il a fallu se réinventer, créer des partenariats et vraiment, enfin, créer un ADN qui soit extrêmement particulier. Quand on met des produits sur le marché, comme on l'a fait, enfin, on pourrait se voir d'ailleurs tous les deux mois, enfin, en tout cas, depuis le début de l'année, parce qu'on l'a fait au CES, on l'a fait au Mobile World Congress. Et là, on vient de redévoiler le 29 avril, 8 nouveaux produits sur 3 différentes gammes différentes, bien particulières. Et je rebondis sur le sujet précédent que j'ai trouvé incroyable.
Oui, avec Philippe sur son film IA. Ouais.
Et qui résonne avec une initiative.
Après, il faut le voir, hein, peut-être que ça va.
Il faut le voir, mais le concept est incroyable. Et nous, enfin, à l'échelle de Motorola, Lenovo, enfin, du groupe, on fournit l'ensemble de ces technologies. Enfin, on permet vraiment à ces créateurs de délivrer des contenus comme cela. Mais ça résonne sur une initiative qu'on avait eue il y a 2-3 ans, où en fait, pour repositionner notre marque et notre ADN, plus en gardant le côté tech, mais également sur le côté lifestyle, on avait créé un défilé de mode complètement généré par IA, avec une thématique Motorola, les couleurs, et ça reprenait les couleurs, les matières. Donc là, ça fait clairement appel à notre partenariat avec Pantone, par exemple, qui nous accompagne.
Et, voilà, enfin, et tout ça pour redorer un peu l'image de Motorola et la rajeunir, en quelque sorte, pour les jeunes. Pour que vous puissiez devenir désirable auprès des jeunes.
C'est exactement. Voilà. Et on peut pas, on pouvait pas rester uniquement sur des aspects tech, prix, spec. Enfin, évidemment, c'est très important, le consommateur le regarde.
Mais aujourd'hui, c'est vrai que.
Mais aujourd'hui, enfin, un smartphone, c'est quand même un objet extrêmement particulier. C'est le seul objet où, si vous partez de chez vous, vous l'oubliez.
Vous n'êtes pas les seuls à faire des smartphones.
On n'est pas les seuls. C'est un des secteurs les plus concurrentiels au monde. Et donc, c'est vraiment très important la façon dont on positionne la marque. Et on commence à réussir notre pari, on le mesure. On sait que typiquement sur les smartphones qu'on met sur le marché, qui sont quand même très segmentants en termes de coloris, 65% des smartphones qu'on met sur le marché ne sont pas des smartphones noirs, gris ou blancs. Ce qui est quand même très significatif. Et on s'est aperçu, là, on augmente considérablement notre part de premium. Nous, ce qu'on appelle premium, ce sont les franchises Razor et Edge. Mm-hmm. Notre part de premium, maintenant, pèse 40%, mais surtout, on commence à toucher une cible qui a moins de 35 ans. Ce qui est assez nouveau, nouveau pour nous. Effectivement, enfin, moi aussi, hein, j'avais pas un StarTAC, mais j'avais un Razor. Mais et oui, c'est vraiment ce qu'on cherche à créer et redévelopper, quoi.
Alors, après, il y a la technologie, bien sûr, parce que c'est bien beau de revenir un peu dans le game, entre guillemets, mais il faut aussi avoir des téléphones séduisants. On va pas énumérer les 8 modèles, parce qu'on va pas s'en sortir, mais l'idée, c'est quoi? C'est de toucher vraiment tous les segments du marché, hein, quand je vois les prix 229 euros. On peut avoir un smartphone qui tient la route à 229 euros aujourd'hui?
Qui tient vraiment la route, hein, mais avec
ça, c'est une super bonne nouvelle, en
avec
fait.
Avec une protection IP. Alors,
premier smartphone pour les ados, enfin voilà.
Oui, c'est, ouais, c'est, enfin, premier smartphone 5G, premier prix 5G, et avec une promesse qui reste la même, qui est pas simple à tenir quand même en ce moment, hein, parce que le. Oui,
avec le coût de, avec, de avec l'explosion le coût
de la mémoire, etc.
Vous arrivez à tenir le choc, là?
En fait, il faut conserver sa promesse, et donc, enfin, concrètement, enfin, c'est le, plus le temps va passer, là, et en tout cas, si cette crise des composants continue, et plus certains de segments de prix vont être amenés à disparaître. Enfin, tout du moins, segment de prix sur lequel on aura envie de délivrer une expérience qui soit pertinente. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, rapidement, enfin, on va dire à partir de septembre cette année, voilà, un entrée de gamme smartphone qui était entre 100 et 150 sera plutôt entre 150 et 200.
Ouais, d'accord. Voilà. Donc, il y aura quelques dizaines d'euros supplémentaires.
Mais il y a un vrai impact. Et là, pour le coup, la robustesse de la supply chain de Lenovo, et quand on est un des premiers donneurs d'ordre mondiaux sur les composants,
ça sert à quelque chose.
Ça sert vraiment à quelque chose.
Sur le haut de gamme, vous jouez sur quoi? Sur le pliant, bien
Alors,
sûr.
Sur le haut de gamme, on a franchi une première étape. On a vraiment beaucoup misé sur les form factors, enfin sur le pliable.
Ouais.
On a annoncé au CES des Fold. On vient, enfin c'est quand même unique sur le marché. On vient quand même d'annoncer 3 nouveaux pliables. Ce qui est quand même un pari assez marqué. On vient de lancer une nouvelle franchise qui s'appelle Signature, qui sont des smartphones pareils qui sont à la frontière de la tech et du lifestyle, et qui intègrent une conciergerie.
Ah d'accord, donc avec des services un peu avec premium.
Des services extrêmement premium, et vraiment très orientés.
Qui s'adressent à une population plus aisée.
Exactement.
Qui est prête à payer en plus pour avoir ce type de service.
Du service et pour avoir ce qui se fait de mieux en termes de photos. Le produit, il est gold, DxOMark. Enfin, c'est vraiment, on essaie de placer la barre à un endroit où il n'y a absolument aucun compromis.
Et alors, votre flagship, c'est celui que vous avez apporté là, le pliant, ou alors il y en a d'autres?
Ça c'est le flagship des pliables, c'est le Razer 70 Ultra. Donc, c'est vraiment un smartphone qui vient de.
Voilà, et quand vous l'ouvrez, vous avez un écran qui se déplie dedans. Hein.
Oui, il y a un écran qui se déplie à l'intérieur, et c'est vraiment l'incarnation du savoir-faire de Motorola. Motorola s'était créé en 1928, donc on n'est pas loin des 100 ans. Et là, quand on voit un smartphone pliable, enfin, abouti à ce point-là, avec une charnière en titane, sur lequel la batterie a pas loin de 5000 milliampères, donc enfin, il y a plus de problème de.
Ça va décoller, à votre avis, le marché du smartphone pliant? On voit que Samsung a galéré les premières années, vous aussi d'ailleurs, parce que c'est pas le premier smartphone pliant que vous sortez, ça fait quelques temps.
Non.
Et on voit qu'Apple devrait, si tout va bien, sortir un nouveau smartphone, son premier smartphone pliant. Ça va décoller, vous pensez?
C'est un bon signal. Si Apple sort un smartphone...
Si, effectivement, Apple le sort, oui, en effet.
Ça va continuer à encore emmener cette catégorie qui, pour nous, ne fait que progresser depuis toutes ces années, et pour laquelle on a enfin franchi récemment la position de numéro 1 mondial du smartphone pliable. Donc, c'est vraiment...
Donc, vous êtes armé face à la concurrence?
On est prêt.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous faire un petit rappel de l'histoire de Motorola et de son repositionnement aujourd'hui en 2026. Pierre-Yves Ortmeyer, vous êtes le directeur général donc de Motorola France, avec ses 8 nouveaux téléphones qui viennent de sortir. Pour terminer ce Tech & Co en ce mardi soir, on sera là demain, bien sûr. Vous avez raté le début de cette émission. Eh bien, dans quelques instants, vous pourrez retrouver les replays et les podcasts. Et puis, dès demain, nous serons aussi en replay sur la chaîne YouTube de BFM Tech. Très belle soirée et à demain, bien sûr, avec plaisir.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.